On va se gêner sur Europe 1.
16h, 18h30, Laurent Ruquier.
Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Pendant 2h30 aujourd'hui, vous allez pouvoir apprécier Isabelle Motreau. Bonjour. Philippe Alfonsi. Bonjour. Fabrice Eboué. Jérémy Michalak. Peut-être Titoff, s'il arrive. Et une larme coule déjà au coin de l'œil de chaque chroniqueur, de chaque auditeur, puisque c'est aujourd'hui le dernier jour. Oh. Enfin, le dernier jour dans l'émission. Hein. Le dernier jour d'Olivier de Kersauzon. Oh,
ah, il y a une autre larme qui coule, mais c'est parce qu'il m'a cogné, c'est pour ça.
Déjà.
Vous repartez déjà, Olivier? Une semaine seulement avec nous, enfin.
Ah, c'est pas mal déjà.
Ouais. Mmh.
Mais c'est dur, lui, hein. C'est
non, avec vous, c'est sympa, mais c'est l'environnement qui est merdeux.
Ah ouais. Peut-être super. Qu'on pourrait, finalement, délocaliser l'émission en Bretagne ou.
Non, mais, non, mais à Brest, ça serait bien.
Ah oui, on va aller faire l'émission à Brest.
Moi, je ferais bien. J'alternerais plus volontiers Tahiti-Brest que Tahiti-Paris, quoi. Mais Brest, c'est magnifique. Hein. Si vous aimez les gris. Et toute la gamme des gris. c'est extraordinaire. Ah oui. Et la pluie ne mouille que les cons en Bretagne. Donc vous risquez rien. Hein, donc c'est un pays magnifique.
Bon, en tout cas, on est bien triste, Olivier.
Ouais, moi aussi, j'ai un arc-en-ciel dans mon cœur. C'est la joie de partir et la tristesse de vous quitter.
Mais oui, mais. Hein, mais
il est en forme.
Mais en même temps, le retour ne sera que meilleur, j'en suis sûr.
Ouais, en 2013.
Ah, bah, Titoff est là, finalement. Vous voyez, ah, il a été mauvaise langue, Anthony Bloch, notre collaborateur-programmateur, parce qu'il a dit non, il ne sera pas là avant 16h05. Et puis, vous voyez, il est là avant 16h05.
Moi, mauvaise langue. Bien sûr, je suis là, je l'ai appelé. Ah, ouais. J'étais bloqué parce que.
Il m'a dit Gros Titi ne sera pas là aujourd'hui. Il m'a dit.
T'as bien fait de venir, il y a plein de meufs dans le public aujourd'hui.
C'est pas mal, hein, ouais. Puis Philippe, j'ai pas vu qu'il y avait. J'ai pas l'impression qu'il y a du vent dehors aujourd'hui, mais sa coupe de cheveux et.
Ah, bah oui, mais toujours. Mais attends,
il a couru. Oh.
C'est vrai que Kersauzon et Alfonsi ont à peu près la même absence de coupe de cheveux.
Ah, bien un côté vieux beau qui les réunit les deux, tu sais. Oh.
Bah, c'est mieux vaut être deux vieux beaux qu'un petit moche, hein.
Tout va bien, Fabrice Eboué?
Oh putain!
Ah, j'aime quand il le frappe!
Mais bah, moi j'aime pas, moi!
C'est vrai qu'il a une épaule qu'on a envie de frapper. Ah, ouais. Hein. Pas l'autre, mais celle qui est de votre côté, je trouve. Ouais. Essayez-vous, Fabrice, de votre côté, voir.
Non, mais Fabrice, c'est pas un violent. Lui.
Et puis, bon, c'est vrai que c'est la radio, ça sert à rien ce que je vais dire. Je vais dire.
Ouais, vas-y.
Bon, parce qu'on a la version jeune derrière de la coupe des cheveux.
Ah oui! Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un garçon.
Je suis désolé,
là-bas.
C'est de la radio, mais.
Mais c'est drôle quand même.
La version 20 ans avant, quoi.
Mais il a quel âge?
D'ailleurs, je dois dire que je ne sais pas d'où viennent tous ces étudiants et toutes ces étudiantes qui sont là aujourd'hui, mais alors ils sont sapés comme des Millers. Hein. Je dois dire cravate, costume, j'ai pas vu ça. Lille a beaucoup évolué, hein, parce qu'ils viennent de Lille tous. Ah, c'est dingue.
Et la mode à Lille, c'est une serpillère sur la tête, alors.
C'est fou, ça. Vous êtes étudiant en quoi?
Communication.
Ah, communication, bah
ah,
oui.
Ils sont... ça. Voilà.
Vous verrez après, vous comprendrez que vous pouvez venir comme nous. En t-shirt et en basket.
Ouais, dès que vous pas lavé.
Je crois que c'est des lycéens, ils sont majeurs en fait.
Bonjour à tous, c'est un mail adressé à Joujou, Michalak. Je vous regardais encore hier, Jérémy, sur la 5 et j'ai constaté qu'il y avait un vrai problème dans cette émission. Oui, le cadreur doit être mauvais ou alors vous êtes trop petit, car
je crois que j'ai la réponse.
On ne vous voit quasiment pas quand vous parlez. Je vais vous faire envoyer une chaise haute histoire de vous remettre à niveau, mais il y a un problème dans cette émission. C'est vrai ça? Vous êtes mal cadré, Jérémy?
Ben, j'en sais rien. Je découvre, je l'apprends.
Je pense qu'il y a que la tête.
Je vais peut-être regarder alors.
Moi, je regarde souvent la nuit, parce que je regarde tous les détritus de la télé à ce temps-là, et je trouve qu'on le voit trop. Il dit des choses prétentieuses, sans intérêt. Mais c'est effrayant. J'ai honte pour toi.
Je vais tenter un truc.
C'est bien, voilà.
Joujou vient de mettre une claque à Kersauzon.
Mais je suis pas vraiment sûr de ce que je viens de faire.
Non, il vient de se faire.
Je suis en train de réfléchir en même temps.
Il vient de se faire mal à la main, surtout.
Il m'a pété un doigt, là.
C'est bien, j'ai eu raison de faire ça.
Ça vous a fait mal, mais Olivier.
Tu sais que si on est sur un bateau, là.
Ouais.
Tu sais, il se passe ça, là.
Non, mais ça. Non,
bah, si on est sur un bateau, ça fait une sardine de plus.
On peut pas être sur un bateau avec ça.
Michala, quand il tape sa femme, c'est lui qui porte plainte.
Ça vous a pas fait mal, Olivier, hein?
Non, non, non. Mais j'ai, ça me fait de la peine pour lui. Puis avant de partir, je te donnerai une petite accolade.
Ah hein, oui.
Et durant 15 jours, tu penseras à moi en te regardant le dos.
Je trouve la guéguerre entre Jérémy Michalak et Olivier de Kersauzon trop triste, m'écrit Bouboule. Vous envoyez des mails maintenant.
Vraiment, continue. Alors, vous savez quoi, là, sur le côté petite chambrade, sur mon embonpoint? Eh ben, écoutez, ça me rend service.
Eh oui, parce que ça vous donne.
Enfin, surtout avec les chauffeurs de taxi. Chaque fois que je monte dans un taxi, mais vous êtes pas si gros que ça.
T'es sûr qu'ils te font pas payer le supplément bagage, non? Y a pas de.
Ta gueule, toi, hein, parce que là, t'es mal barré, donc.
Je trouve trop triste, donc m'écrit Bouboule, la petite guéguerre entre Jérémy Michalak et Olivier de Kersauzon. Après tout, ils font tous les deux partie de la même famille, celle des grands aventuriers. Olivier traverse la mer à la voile et Joujou le marais à la vapeur. C'est pas mal.
Bon, c'est rigolo. Ça.
Il est bon, Bouboule. Salut à toute l'équipe et grosse les chouilles à Fafa que je connais très bien. C'est vous, ça, Fafa.
Les joujoux, Fafa, gros titine, ça devient n'importe quoi.
C'est les chouilles de la part de Céline. J'habite à Villeneuve-les-Avignon, me dit Laurence.
Je vais chanter.
Tout près de l'île de la Barthelasse. Depuis quelques jours, vous offrez un séjour au mât du Capelou et chaque fois que je vous entends, vous m'écorchez les oreilles avec la prononciation du mot mât, car il faut prononcer le S à la fin. Il s'agit du mas du Capelou.
Bien sûr.
C'est assez difficile à écrire, mais moi, je vous le dit, prononcez le S, le mas du Capelou, pour entendre les cigales, ce sera mieux. Et effectivement, c'est un bel endroit qui va régaler vos auditeurs. Ça tombe bien. Les voici, nos deux premiers candidats du jour, qui vont donc maintenant, je vais corriger, peut-être partir 3 jours et deux nuits au mas du Capelou.
Ah,
il s'agit de Jeanne de Sainte-Catherine, dans le Pas-de-Calais. Bonjour Jeanne.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous faites, Jeanne, dans le Pas-de-Calais?
Je suis lycéenne.
Lycéenne. Ah, mais vous êtes majeure tout de même.
Ah non, non.
Ah bon? Ah, mais alors on peut pas vous envoyer dans le mas provençal du XVIIe siècle parce que c'est un peu porno cet endroit.
Surtout quand on s'appelle Jeanne de Sainte-Catherine, ça va la choquer. Là.
C'est la ville Sainte-Catherine.
Vous êtes lycéenne en terminale, en première?
En première.
En première.
Ah bon.
Bon.
Majeur dans combien de temps?
Dans un an et deux mois.
Moi, ça fait plaisir de voir qu'il y a des jeunes qui nous écoutent encore. Voyez, ça, franchement, ça fait plaisir. Qui vous aimez dans l'équipe? Quels sont vos préférés, Jeanne?
Alors, j'aime bien tout le monde, mais alors j'aime bien Titoff surtout.
Ah, oh, ça, elle est super. Elle est super.
Pierre Bénichoux, évidemment.
Ah oui, les jeunes.
Ah, j'aime bien Claude Sarraute aussi.
Ah, et Claude Sarraute, ah, qu'est-ce que je disais? Et vous, Mohan de Clavier-Souilly, en Seine-et-Marne. Bonjour, Mohan.
Bonjour, Laurent.
Je prononce bien votre prénom, Mohan?
Mohan, oui.
Et c'est, ça vient d'où ce prénom, alors, Mohan?
C'est d'origine indienne.
D'origine indienne, ça alors? Ah, mais bien. Plutôt Apache, Sioux
Non, plutôt d'Inde.
Ah oui, d'accord.
Comme le cochon. Le cochon d'Inde.
Et vos parents sont d'origine indienne?
Non, pas du tout.
Pas du tout. Et pourquoi ils ont choisi Mohan, alors?
Ils devaient fuir. Ils devaient se rouler des gros pétards. On va appeler Mohan. On va les faire rentrer. On va les mettre un petit cul noir sur le front et les cheveux longs.
Il est peut-être.
Vous savez pourquoi alors ou pas?
Non, pas précisément.
Pas précisément. Vous n'êtes pas interrogé là-dessus. Vous n'avez pas posé de questions.
T'es pas comme Mowgli, t'as peut-être trouvé dans la jungle.
Mohan, c'est très joli en tout cas.
Merci.
En revanche, je ne connais pas Clavier-Souilly en Seine-et-Marne.
C'est pas loin de Meaux.
Et vous, Mohan, vous faites quoi dans la vie?
Je suis électricien.
Électricien, c'est-à-dire électricien?
Eh ben, je fais des travaux.
C'est-à-dire que. C'est-à-dire qu'il fait pas de la plomberie, quoi.
Vous êtes garagiste, c'est-à-dire.
Mais non, mais il y a plusieurs sortes d'électriciens. Mais oui,
attendez,
il y a ceux, alors je t'explique, il y a ceux, parce que j'ai fait moi, il y a ceux avec un pinceau. Et ça, c'est des peintres. Il y a ceux avec des clés à molette, tout ça.
C'est des mécaniciens.
C'est des mécaniciens, voilà.
Et les électriciens avec
des
tuyaux, c'est des plombiers.
C'est des plombiers, voilà.
D'accord. Non, mais vous êtes électricien, par exemple, indépendant, artisan.
Non, indépendant, je travaille à mon compte.
Ah voilà, votre compte, c'est-à-dire qu'on vous appelle, on a un problème d'électricité, hop, vous débarquez, SOS électricité, vous réparez les plombs, vous changez un fusible,
oui, tout à fait.
Tout ce que je sais pas faire, moi.
Bah, vous m'appelez.
Eh ben voilà, Mohan, je vous appelle, pas de problème. Hein. Oh, je suis dans le noir. Vite, vite, Mohan.
Si il y avait quelqu'un dans le noir, je préférais que ce soit Isabelle.
C'est avec Isabelle, on la préfère dans le noir. Ouais.
Ouais. Ouais, c'est gentil. J'aime quand le public proteste.
Jeanne, Mohan, vous allez vous affronter pour gagner 3 jours, 2 nuits au mas de Capelou, mais on a pris un peu de retard. Alors, à votre avis, ça sera quand?
Après la pub.
Yeah.
Préparez-vous.
Europe 1, on va se gêner.
Le challenge auditeur. Le moment que Julien Lepers nous envie.
Mes camarades vont vous laisser 10 secondes d'avance, Jeanne et Mohan, pour tenter de répondre à cette question. Question qui concerne Rodan. Ah. Rodan a fait 13 000 kilomètres pour retrouver...
Je sais, c'est une cigogne.
Non, là, il faut attendre la fin de la question, et là, c'est perdu, Jeanne.
Oui, oui, c'est la règle.
Ah, non, mais
disqualifié, t'as plus le droit de jouer pendant 30 ans.
Elle n'est pas majeure.
Elle a gagné, Jeanne.
Attends, je vais potasser toute la presse ce matin. Alors
ah bah, vous avez bien travaillé, parce qu'effectivement, Rodan, c'est une cigogne mâle qui a parcouru environ 13 000 kilomètres pour retrouver sa cigogne handicapée qui vit après avoir été blessée par un tir de chasseur en 93 dans un village de Croatie. Et après être partie, évidemment...
Elle est revenue, ce qui est le cas de propos des gens qui partent. C'est vachement intéressant, votre
truc. La cigogne croate handicapée.
Je l'ai vu à un feu rouge l'autre jour.
Cigogne en fauteuil roulant. C'est quoi, elle est en bikini? Comment ça se passe? Elle fait du slam ou pas?
C'est une belle histoire. Vous n'avez pas de... C'est la cinquième année consécutive que Rodan fait un tel périple depuis l'Afrique du Sud. Parce que de temps en temps, bon, elle va voir
Elle
prend ses places pour la Coupe du Monde de football. Et puis, elle revient. Il revient, puisque c'est un mâle, Rodan. Il revient pour retrouver Malena. Malena, la petite cigogne blessée, handicapée. Qui est là.
Est-ce qu'il en a profité pour aller voir sa mère en maison de retraite ou pas aussi?
Le couple a élevé déjà 4 couvées de cigogneaux, car on dit des cigogneaux, en 4 ans.
C'est des cigogneaux?
Non, pas cigogneaux. Des cigogneaux.
Ah oui, d'accord, mais combien?
C'est un cigognal ou c'est des cigogneaux?
C'est un bel animal, attention, vous moquez pas de la cigogne.
C'est un bel animal, même handicapé, il est beau.
La cigogne, c'est un bel animal. Faut voir là, au-dessus d'une cheminée, en Alsace avec leur slogan voter UMP. Non, c'est une belle.
C'est les cigognes qui amènent les enfants aussi.
Bien sûr, Rachida Dati à Strasbourg, comment elle a eu son bébé?
La petite Zora, effectivement.
La petite Zora a été apportée par une cigogne à Strasbourg.
Non, là, elle, c'est une cigogne qui a baisé Rachida Dati.
Non, c'est beau. Ça vous émeut pas, ça, l'histoire de cette cigogne handicapée?
Apparemment, il revient chaque année. Oui. Ils ont eu 4 portées en 4 ans.
Et pourquoi on n'en parle que cette année?
Non, parce que l'année dernière, c'était passé un peu inaperçu.
Mais l'année d'avant aussi, et l'année d'avant.
Et puis, grâce à moi, cette année, tout le monde connaît ce couple, Rodan et Malena. Rodan, c'est le mâle. Dites donc, Mohan, vous n'avez pas été très doué là-dessus, hein?
Elle a répondu très rapidement.
Ah, c'est le moins qu'on puisse dire, Mohan. Jeanne, vous partez pour le Mas de Capeloux, sur l'île de la Barthelasse, un vrai havre de paix et de verdure, face à la cité des papes et du célèbre pont d'Avignon, au Mas de Capeloux. Vous vivrez dans l'atmosphère chaleureuse des maisons d'autrefois.
Vous devriez aller avec ses parents en plus, c'est génial. Putain.
Vous pourrez profiter des masses.
Je vais l'offrir à mes parents.
Vous allez l'offrir à vos parents. C'est sympa. Eh bien, ils pourront
comme
petit
ça, alors à l'appel week-end.
C'est ça.
On va faire une fête chez elle.
Et eux, ils pourront petit déjeuner au champ des cigales près de la piscine.
Et Mohan pourra venir chez toi si tu veux en plus pour le week-end. Il a un stock de roses gratuit en plus.
Ah, Jeanne, elle veut bien rencontrer Mohan, elle dit.
Ah, bah les Indiens, ça offre plein de roses, tu vas être servi. Hein.
Mohan, vous n'êtes pas d'accord, vous avez une petite amie déjà, Mohan.
Hein. Oui, je suis marié. Oui.
Ah, il est même marié.
Ça va être compliqué là.
Et qu'est-ce que fait votre femme? Elle est électricienne avec vous?
Non, elle est infirmière.
Elle est infirmière.
Mais quel style d'infirmière? Plutôt dans la porte. C'est plutôt.
Mohan, vous retenterez votre chance sur ruquier@europe1.fr. Et Jeanne, bon séjour en Avignon, au Mas de Capeloux. On vous embrasse, l'un et l'autre.
16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier.
On va se gêner.
Et c'est la suite d'On va se gêner sur Europe 1, avec autour de Laurent Ruquier aujourd'hui, Philippe Alfonsi, Fabrice Eboué, Olivier de Kersauzon, Jérémy Michalak, Isabelle Motreau, Titoff, et l'ambiance est dissipée, cher Laurent.
Je peux savoir de quoi vous parlez, Fabrice Eboué, avec Olivier de Kersauzon?
Parle du gabarit de Michalak dans l'émission télé.
Ah oui, pourquoi?
Je sais pas, ça a l'air de les fasciner cette affaire.
Parce qu'on ne le voit vraiment pas, c'est vrai que c'est hallucinant. Il devrait prendre une chaise bébé ou un truc qu'on voit un peu plus haut, comme on le voit pas. Ça.
Non, mais...
Quand tu pousses, tu te tournes de l'autre côté, s'il te plaît.
C'est vrai, il vous tousse dans la gueule.
Déjà, il sent le furet, mais en plus.
Non, ça c'est peut-être les gens de Lille parce qu'il y a le furet à Lille.
Oh.
oui, c'est la librairie de la Grande Place.
La Grande Librairie.
Le Furet du Nord.
Grande Place.
Le Furet du Nord.
Ah oui, le Furet. C'est pour ça que ça sent le Furet aujourd'hui. On a des tas de Lillois et Lilloises qui sont là, étudiants en communication, qui viennent apprendre ici comment il faut parler, sans tousser, sans
le plus inquiétant, c'est comme les trois en costume, là. Je sais pas ce qu'ils ont. Ils ont les bras croisés comme ça.
Et on dirait les bébés brunes.
Ah ouais, on dirait.
Bon, je suis rentré, je croyais qu'ils allaient sortir la guitare et tout, il y avait une surprise. Tu sais.
Est-ce qu'il y a vos profs avec vous, les jeunes, là? Ah, ils sont où,
les C'est lesquels? Ah, c'est celui avec la guitare électrique, là-bas. Là.
Qui roule des pétards.
Avec le slim. Avec
ah non, mais ce qui est quand même génial, c'est que les étudiants sont en costard et le prof, il est en jean et en...
Ah, normal. Ah, non, et en Air Max, le mec.
Ah non, mais c'est incroyable, ça, quand même. Vous voyez, ah, les époques changent, hein, quand même, Olivier. Ouais, bah, c'est quand
avec, vous... avec un prof comme ça, ils apprendront juste une chose, c'est à déguenillé, quoi.
Je sais pas si
heureusement qu'il y a des étudiants conscients de la réalité de notre monde qui sont eux propres, et tout ça. Moi, j'aurais un prof comme ça, je le virais, je l'ai tout de suite. Parce que déjà, la communication, tu vois un mec comme ça rentrant dans ton bureau pour te parler, tu dis, bah attends, les livraisons, c'est l'autre côté.
Il y en a un qui applaudit. Il a lancé des applaudissements, mais pas trop, tu sais, des élèves.
Il n'y a que la classe de communication. À part une place, c'est Daniel qui l'a prise. Donc, je crois qu'elle a chassé un des élèves.
En communication, la cravate, c'est un effort qu'on fait pour autrui. Plutôt que d'être là, fringué, en campeur le soir de tempête. Là. Écoutez pas ce prof-là, hein, si vous voulez. Suivez plutôt vos deux camarades là, qui font propre sur eux.
Je voudrais vous parler, moi, aujourd'hui, de Daisaiku Takanashi, qui est un japonais, et de Patrick Chan, qui est un canadien. Patrick Chan.
Les deux ont fini derrière Brian Joubert. Les questions suivantes, parce que là, t'es pas intéressant, on peut
non,
dire ça.
Non, c'est pas du tout la bonne réponse.
Ah bon.
Merci Fabrice, parce que j'allais plonger comme un fou.
C'est pas du patinage artistique?
Si.
Ils ont fini devant Brian Joubert?
Non, ils ont fini devant.
C'est ce que j'ai dit.
Derrière, c'était après
devant,
la compétition.
Derrière, c'était après la compétition, je savais pas.
Vous avez dit derrière et c'est devant, puisque lui, il n'est que médaille de bronze. Eux, ils sont médaille d'or et d'argent. Bonne réponse de Fabrice Evouet.
Bravo.
Il n'empêche qu'il s'est encore cassé la gueule. Vous avez vu la chute quand même sur un triple.
Ah, il s'est encore pété la gueule.
Ah oui, sur un triple loot.
Moi, je l'ai entendu à la radio, il pleurait en disant qu'il était sûr de lui maintenant.
Mais non, mais je crois que ça fait partie de son programme, la chute maintenant.
C'est figure.
Il veut lancer un sport parallèle, je crois. Une nouvelle discipline de patinage artistique.
Le gadin à glace. Voilà. Je voudrais quand même signaler aussi la présence de Florent Amodio, qui lui a 19 ans. Il disputait sa première grande compétition. C'est un Français. Il a terminé 12e. Bon, c'est pas tout proche, mais grâce à cette 12e place, ça nous permettra d'être à nouveau présent à travers deux champions l'année prochaine, lors des prochains championnats du monde. Puisque vous savez, c'est en fonction des résultats précédents qu'on a un nombre de places acquises ou pas. Et grâce à cette 12e place, on aura à nouveau deux représentants l'année prochaine aux championnats du monde. Ça semble vous barber le patinage artistique, j'ai l'impression.
Je trouve ça chiant comme la fumée. Hein,
ah oui hein. Oh, pourtant, c'est joli.
Ça rappelle les fringues. Ça, ils ont les mêmes fringues que dans les concours de danse.
Ah oui,
hein, j'adore. Avec les gonzesses à volant, on dirait une lampe espagnole des années 30.
Tout à fait.
Attends, mais c'est à chier. Le mec, il a un moule-bit en paillettes et tout ça, mais c'est à chier. C'est d'une laideur. Et tout
non,
ça.
C'est un sport de gay. Tout
c'est
ça.
Pas un sport de gay du tout.
Oh, si, calme.
Et la patinoire sur la place de l'Hôtel de Ville à Paris, c'est pour faire plaisir à qui?
Ah ouais, tu vois, il se met à la fenêtre. Oh, dis donc, il patine bien celui-là. Là.
Vous n'avez jamais patiné, vous n'êtes jamais monté sur des patins à glace. Je sais que vous ne vous baignez pas, vous nous l'avez dit l'autre jour, vous ne nagez pas.
Non, mais vous allez arrêter de me poser des questions sur ma vie.
Non, mais je sais pas, moi je vous imagine bien, un petit costume à paillettes.
Ah ouais, ouais. Je vais continuer à m'insulter, c'est bien. Je peux me déplacer.
Sur une musique de Luis Mariano.
Habillé par Jean-Paul Gaultier. Et
avec un petit body brillant.
Un petit body à rayures.
Aïe, putain, c'est moi qui aïe. Je prends pour tout le monde aujourd'hui.
Vous pouvez y aller. Si vous le frappez, c'est comme si vous me frappiez. Isabelle, vous aimez le patinage artistique?
Pas du tout.
Non,
mais c'est une discipline à chier quand même.
C'est vrai, je suis d'accord.
Je suis assez d'accord avec Olivier.
C'est peut-être méritant sur le plan physique. physique, mais c'est quand même très naze.
Ah oui, parce que quand même, les mecs sont forts, ils sont musclés. Non, mais je veux dire, c'est vrai, il faut être quand même très doué. Vous n'êtes pas capable, vous, de sauter comme ça en l'air. Et puis
moi, j'ai pas envie de sauter en l'air au-dessus de la glace. Faut, faut être complètement taré pour faire un truc pareil, excusez-moi.
Non, les autres, ils, ceux qui aiment bien faire du patin à glace, ils font du hockey.
Ah oui, voilà, ça, du hockey sur glace, ça, ça a du sens.
Ah oui.
Mais se dandiner sur Luis Mariano avec un costume à paillettes, mes couilles. Hein, vous verrez, par contre, assez bien faire ça, vous.
Moi?
Ah oui, avec Joujou dans, dans le lancer du moustique.
En les duos.
Ah oui, Laurent Ruquier, sa crevette de chez Picard. Ah, ouais, ah,
ouais. Alors surtout que les duos, tu sais, c'est pas oublié que ça soit mixte en fait.
Ouais. Vous devriez faire ça pour le gala de l'Union là. Vous faites rien pour le gala de l'Union.
Lundi soir, c'est le gala de l'Union. On est en train de monter un numéro.
Alors que le couple Ruquier Michalak s'est lancé sur la glace.
C'est plus le gala de l'Union.
Ah, vous nous voyez faire un numéro.
Ça peut tuer le couple vraiment. Le couple Ruquier Michalak s'est lancé sur la glace. La tension. Oh, la sodomie vient de passer de justesse.
J'ai honte pour vous.
Le triple sodomio suivi d'une pipette au ras de la glace, c'est quelque chose quand même.
Vous insultez tous les patineurs et toutes les patineuses artistiques
en disant qu'ils sont gays.
Ah ben ça va être
au contraire.
Vous croyez qu'il y a moins de gays dans la navigation que dans le patinage, par exemple?
Non, mais
navigation, ils se branlent souvent. Ils n'ont pas ni l'un ni l'autre. Mais c'est pas. Non, mais c'est connu. Ils sont seuls.
Je vais te laisser ma place.
Tu vas prendre
C'est une vie solitaire, le navigateur. Qu'est-ce que je te dis?
Il y a des ports quand même. Après, quand t'arrives au port.
Je suis désolé, je vais défendre Olivier là. Alors pour le coup, il n'y a pas besoin d'être sur un bateau pour faire ce que vous dites. Hein.
Non, mais tu n'as pas le choix, c'est ce que je veux dire, sur un bateau quand t'es seul.
Mais vous non plus. Allez, un peu de musique sur Europe 1 avec Beard Paula, quelqu'un que je ne connais pas du tout, mais qui fait partie de l'excellente programmation de notre station. C'est une chanteuse folk qui va sortir son premier album le 17 mai prochain. Vous allez me dire qu'on a le temps de patienter, mais quand même, on a un avant-goût de cet album.
C'est bien d'en parler dès maintenant.
Ah oui, oui. L'album s'appellera Give In To Love et la chanson, c'est Picnic Party, Beard Paula. Like an
Et on va gêner, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1 avec Laurent Ruquier et ses questions sur les infos.
On va se gêner sur Europe 1. Modou, petite phrase assassine, grosse connerie, question citation.
Qui a dit Nicolas Sarkozy est Verseau avec une forte composante bélier?
Pâle.
Pâle, son père, dans
son
livre.
Non, ce n'est pas Pâle Sarkozy.
C'est Pile, alors.
Non plus.
Paul?
Non.
Poule.
C'est Poule? Non. Nicolas Sarkozy est Verseau avec une forte composante bélier. Qui fait cette déclaration dans la presse?
Sa femme?
Aujourd'hui. Non, ce n'est pas
quelqu'un
Carla.
De proche
c'est
de
Madame
lui.
Irma.
Madame Irma non plus.
Quelqu'un de proche de lui?
Pas spécialement proche.
Villepin?
Pas Villepin, non.
Quelqu'un qui fait.
Un adversaire?
Non.
Pas un adversaire.
Quelqu'un qui fait de l'astrologie?
Quelqu'un qui fait de l'astrologie.
Tessier? Éric Besson?
Non plus.
Tessier?
Elisabeth Tessier, on ne sait pas ce qu'elle est devenue, elle, alors dites donc.
Mais qui fait de l'astrologie de nos jours?
Elle non plus, elle
fait. Christine Asse?
Françoise Hardy?
C'est Françoise Hardy à l'occasion de la sortie de son nouvel album. Bonne réponse de Philippe Alfonsi.
Et ça veut dire quelque chose, ça?
Ben, c'est parce qu'on lui demande qu'est-ce qu'elle pense de Nicolas Sarkozy. Alors, Françoise répond, il est arrivé un moment où les caisses avaient été vidées par les gouvernements précédents. Elle le défend donc plutôt. Il a très peu de marge de manœuvre. Je l'ai rencontré deux fois, Nicolas Sarkozy, dit-elle. J'avais fait son thème astral avant. Il est Verseau avec une forte composante bélier. Ce qui veut dire que c'est un homme de terrain qui est aussi très affectif, voilà. Et je sais pas à quel signe vous êtes. Tiens, par exemple, je vous ai jamais demandé, Olivier, vous êtes quel signe vous?
Bon, ascendant lapin, moi.
dans l'horoscope chinois, alors.
Ouais.
Mais dans nos signes du zodiaque, faut dire que le zodiaque c'est un truc que vous aimez pas forcément, mais dans les signes du zodiaque à nous.
Cancer, Scorpion.
Cancer, Scorpion. Ah ouais.
Le mélange est délicieux.
Ah oui, j'imagine.
Quand on passe un peu de temps avec les gens de ce signe, le monde est transformé. Quelque chose de délicat et de profond.
Et c'est pour ça que vous devez beaucoup m'aimer, parce que moi, je suis très proche de vous, je suis poisson, vous voyez. Je suis poisson ascendant bateau.
Ça se sent par moments.
Ah ouais.
Non, mais je vous aime beaucoup, vous êtes vraiment l'homme que j'aurais voulu être si j'avais dû rater ma vie, moi.
Mais c'est déjà un compliment dans votre bouche, ça. Je le prends, moi, comme un compliment.
Non, c'est vrai, j'avais pensé que si je faisais que ces métiers-là, ce serait une vie de naze, quoi. Mais vous vous les faites tellement bien que tout à coup, moi, j'ai un regard assez sévère sur le monde de la radio, de la télévision, et vous le faites tellement bien que ça devient presque élégant. Et je voulais vous en féliciter avant de partir.
Ah, c'est gentil, wow. Merci, Olivier.
Non, il applaudit tout le temps, t'as pas applaudi quand j'ai parlé.
Il est jaloux, vous savez, il est jaloux. D'un seul coup, vous me faites des compliments, alors Joujou se dit, mais alors ça y est, ma place est prise.
C'est pas Joujou, ça, c'est que j'ose plus bouger avec l'autre à côté.
L'autre, comme ça. Joujou, il se languit lundi surtout.
Oh putain, tu m'étonnes.
Quel signe vous êtes, vous
Comme Carsozon, je suis scorpion.
Ah, pas un petit scorpion aussi, vous voyez.
Non, je suis cancer. Chez moi, il y a de la délicatesse, il n'y a pas que.
Et vous, Isabelle Merdeau?
Moi, je suis Verseau.
Vous êtes Verseau, mais vous croyez tout ça?
Pas du tout.
Vous lisez l'horoscope?
Jamais.
Tiens, on devrait trouver dans le Parisien l'horoscope pour voir un petit peu ce que chacun.
Non, mais vous y croyez? Vous lisez votre horoscope?
Non, mais c'est toujours rigolo. C'est toujours rigolo de le lire.
Il n'y a que ça de vrai en finale.
Ah oui? Dans le journal?
Ouais, ouais. Il n'y a que ça de vrai. C'est encore ce qu'il y a de moins naze dans la presse, c'est l'horoscope.
Ouais.
Hein. C'est vrai, en plus.
Je préfère lire l'horoscope que l'enfance de Martine Aubry, vous le dites.
Non, vous pouvez pas dire ça.
Oh
devant...
putain, ils viennent de Lille, là, ouais. Toi.
Ah oui, c'est vrai.
Alors, cancer, je vous donne votre horoscope.
Ouais, ça va beaucoup me servir. Hein.
Olivier.
Moi aussi, je suis cancer.
Cœur. Alors,
ils s'en foutent.
On va faire un club, dis donc.
Cœur. Alors, ouais, pour aujourd'hui, hein, uniquement. Demain, c'est foutu. Ouais. Cœur. Excellente ambiance affective faite de gentillesse et de gaieté aujourd'hui.
Mais
Olivier.
De qui il parle?
Vous voyez, aujourd'hui vous allez être gentil et gay.
Non, bah.
Non, c'est l'inverse, tu vas être gay et gentil.
Je vais peut-être m'écarter un peu plus.
Réussite, vous ne supporterez pas qu'on vous mette des bâtons dans les roues.
Ça c'est régulier.
Ça c'est tous les jours. Forme, Olivier, évitez les excès.
Ah, ça je te le dis.
Ah, j'ai une vie de moine, moi.
Et vous alors, vous avez dit que vous étiez.
Scorpion.
Scorpion, Joujou. Ouais. Scorpion.
Prenez des
mal
coups.
Au bras.
Forme, respectez une hygiène de vie. C'est que des conneries, hein, quand même. Hein. Des banalités. Ah,
mais non. Pourquoi tu dis ça?
Cœur, vos propos dépassent votre pensée, Joujou.
Oh la vache.
Verseau, vous voulez renouer avec certains contacts.
Ah bon?
Eh oui.
Ça n'a pas marché.
Cœur, ne cherchez pas à imposer à tout prix votre point de vue.
Oui.
Réussite, évitez les accrochages avec vos supérieurs.
Ah oui, c'est la base du truc.
C'est pour moi ça. Forme, léger coup de pompe.
Un vendredi, c'est étonnant.
J'ai peut-être rencontré un cycliste. C'est bizarre, ça, quand même. Vaut mieux regarder la météo. La météo, c'est plus fiable, quand même.
Bon, à peine.
Alors, si vous voulez que je vous donne la météo sur la Polynésie.
Non, mais foutez, je l'ai eu ce matin, déjà, la météo sur la Polynésie.
Vous repartez là, vous prenez l'avion ce soir?
C'est le temps qu'il fait, ouais. Non, je vais à Brest, là, juste deux
Brest,
jours.
À Brest d'abord.
Ouais. Ah.
Bon, Pierre.
Ça fait une vie en gris et bleu.
Eh oui.
Est-ce que je vais y aller, moi, Laurent? Parce que l'émission n'est pas très intéressante.
J'ai une autre question pour vous, si vous voulez, Fabrice Eboué, puisque vous insistez, la voici. J'aimerais peut-être que l'on parle cet après-midi d'une actrice, Peg Entwistle, qui est décédée en 1932, c'est-à-dire que c'est pas tout jeune.
C'est pas hier.
Mais si on en parle aujourd'hui, il y a une bonne raison. Pourquoi reparle-t-on dans la presse aujourd'hui de cette actrice, Peg Entwistle, décédée en 1932?
À cause d'un film?
Non, du tout.
À cause de sa descendance?
Sa descendance, non plus.
Bon, de sa vie?
Bah, sa vie, plus sa mort que sa vie.
C'est lié à son job, le fait qu'elle soit actrice ou pas du tout?
Ah oui, ça c'est sûr qu'elle a choisi de faire quelque chose qui est lié à son métier d'actrice.
Vous pensez qu'elle était morte de quelque chose, c'était d'autres choses en
non,
fait.
Non.
Y a-t-il un rapport avec les lettres Hollywood?
Oui, tout à fait.
Elle était enterrée dessous.
Les lettres Hollywood.
Elle les a inaugurées.
Non, ce n'est pas elle qui a inauguré. Pourquoi vous pensez aux lettres Hollywood?
Parce que les lettres Hollywood à Los Angeles sont en danger. Il y a un projet immobilier. Ils veulent les virer pour mettre des immeubles.
Exactement. Non. Il faut trouver 3 millions de dollars dans les 3 semaines pour acquérir le terrain où s'inscrivent ces lettres de 14 mètres de haut à Los Angeles, où on peut lire Hollywood de très très loin. Sinon, effectivement, ce sera un immeuble à la place. Donc les comédiens, les acteurs se mobilisent, Steven Spielberg, Tom Hanks, qui ont déjà mis la main à la poche, pour acheter le terrain et qu'on puisse garder les lettres Hollywood à Los Angeles. Mais alors, nous dit pas pourquoi on parle de Peg Entwistle.
Que c'était sa propriété à l'époque, hein?
Non.
Elle a légué quelque chose?
Non.
C'est elle qui a posé les lettres, en fait. Hein. C'est
non.
Elle a eu l'idée de faire ça.
Non.
Elle a un rapport avec les lettres
elle a un rapport avec les lettres.
Ah oui, elle s'est suicidée au pied de la colline parce qu'elle préparait les chiffres et ils ont mis que les lettres.
Bonne réponse d'Olivier de Kersozo, car elle s'est suicidée en se jetant de la lettre H. Bonne réponse.
Est-ce que tiens.
Comme non, c'est romantique.
C'est
pas vrai.
C'est si haut que ça.
Ouais.
C'est si haut que ça.
C'est si haut.
14 mètres.
Elle s'est suicidée en se jetant du H.
Ça a été une des premières victimes du H à Los Angeles.
Ça s'appelle une overdose. Ouais.
Mais voilà, c'est une petite anecdote qu'on nous raconte à l'occasion, effectivement, de cette polémique autour des lettres d'Hollywood qui vont peut-être disparaître. Et cette actrice Peg Entwistle,
c'est
à mon avis, elle s'est suicidée parce qu'elle avait plus de boulot, on voulait plus d'elle comme actrice.
C'est ça qui est glamour à Los Angeles.
Et c'était symbolique de se jeter du haut des lettres de Hollywood, vous voyez,
c'est vrai qu'un acteur français doit se suicider au studio de la Plaine Saint-Denis, c'est moins glamour.
C'est vrai, quitte à se suicider, autant que ce soit vraiment
grandiose.
Grandiose, je sais pas ce que je ferais, mais je choisirais un truc genre.
Mais bon, le videur dur.
Le seul problème, c'est
le videur dur.
Le videur dur d'Europe 1.
Bien,
ça me rappellerait trop mon hamster Fifi.
Quoi?
Oh.
Bah oui, vous vous souvenez, je l'avais jeté dans le videur dur au 5e étage de mon HLM.
Pourquoi t'avais fait ça?
Parce qu'il était mort.
Ah d'accord. Après qu'il était vivant.
Tu l'as pas enterré?
Bah non. Alors justement. Et puis c'était terrible dans les HM parce qu'on entendait les bruits.
Le petit choc mou là.
Je l'avais appelé Peggy en hommage à Peg Entwistle. Parce que je savais déjà à l'époque qu'elle s'était jetée du H. Hollywood menacée de disparition. On va faire quelque chose. On pourrait peut-être donner nous aussi pour que les lettres de Hollywood. On aurait un morceau de terrain à nous finalement à Los Angeles. Ce qui est pas si mal. Vous aimez cette ville, Los Angeles, Olivier?
Ah, déteste.
Vous faites pas escale là-bas quand vous allez en Polynésie?
Si je peux ne pas m'arrêter, je m'arrête pas. Je déteste cette ville.
Ah oui?
Ah ouais, je trouve que d'abord le climat il est pas terrible. Le bord de mer il est moche. C'est à chier le bord de mer là-dessus, non? San Francisco, c'est beaucoup plus joli, la baie et tout ça.
Là, je suis d'accord.
Mais c'est plus joli esthétiquement parlant. Hein,
T'aimes San Francisco, tu l'as dit.
Je vous ai vu dans le film Harvey Milk.
C'est écrit dans l'horoscope, il va être payé aujourd'hui.
Non, mais j'ai travaillé là-bas, moi, quand je suis arrivé en Amérique il y a 42 ans.
Bien sûr, c'était un des premiers village people, au départ.
J'étais portugais au yacht club de San Francisco, là. Je conduisais le camion des poubelles, je peignais les docks, tout ça.
Il y a plaque à San Francisco, d'ailleurs.
Ouais, parce que quand je suis retourné avec mes yachts de 40 mètres là-bas, c'était...
Ah, le frimeur.
Du Arizona, et tout.
Marqué de Carsozo en gros, comme ça, en haut de la colline de San Francisco.
Ouais. Si tu veux, tu peux venir te jeter du cas.
Allez, d'autres questions dans un instant, après la pub.
Car tout de suite sur Europe 1, si on va gêner, c'est avec Laurent Roquet. Si vous souhaitez assister à l'émission, deux possibilités, 3921 ou europe1.fr.
L'année dernière, on en a retrouvé 850 000 sur 25 millions. Quoi donc ? L'année dernière, c'est-à-dire en 2009, on en a retrouvé 850 000 sur 25 millions. Quoi donc ?
C'est des enfants abusés par des prêtres ?
Non.
Ça doit être dans ce rapport-là, à peu près.
Pas du tout. Il a l'air emmerdé, le pape, hein, quand même.
Cette histoire. Bah oui, c'est emmerdant, quoi.
J'avais pas entendu cette histoire d'enfant, mon sourd, maltraité aux États-Unis, c'est assez horrible.
Sourd, ça n'a aucun intérêt. Muet encore, on aurait compris, mais.
Oui, c'est vrai, ils sont cons, les prêtres. Au moins, un enfant muet, répète pas, tandis qu'un enfant sourd.
Ça sert à rien.
Non, c'est affreux, cette histoire, quand même. Mais bon, ma question, c'est mal posée.
C'est étonnant, alors.
C'est plutôt sur 25 millions. On n'en a pas retrouvé 850 000.
Ah, donc on en a retrouvé...
Non, 24 millions.
Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est très différent.
Oui, très.
Parce que ça veut dire qu'on en a quand même retrouvé 24 150 000, si vous faites le calcul, cher Olivier.
Quel talent.
Ça a un rapport 24... avec Internet ou pas?
Du tout. Sur 25 millions...
C'est en France?
Il y en a seulement 850 000 qui n'ont pas été retrouvés. C'est pas en France.
C'est dans le monde?
C'est dans le monde.
C'est pas du tout Internet, hein. C'est pas Facebook.
C'est pas Internet.
C'est abstrait, c'est des choses abstraites, si c'est pas des êtres vivants.
C'est pas des êtres vivants, mais c'est pas abstrait pour
autant. C'est des objets.
Des bouteilles à la mer ou des messages?
Non.
C'est petit, c'est gros.
Oh, c'est joli, ça, la bouteille à la mer.
C'est joli, hein. Ah. Je suis sûr que si tu demandes à Carsozon, il a dû déjà en trouver.
Moi, je lui demande plus rien, moi. Si, il a peut-être déjà retrouvé des bouteilles. Vous avez déjà jeté des bouteilles à la mer?
Il y a tellement de mecs qui en jettent, maintenant vous naviguez au milieu des bouteilles. Ça fait glong, de la côte toute la journée. Il n'y a plus que ça. Bon, il y a des mers que tu vas pouvoir traverser en sautant d'une bouteille à l'autre bientôt.
Alors là, il ne s'agit pas de bouteilles à la mer. C'est tout autre chose qui vous intéresse tous, d'ailleurs.
C'est grand, c'est bon.
Il y a les grands, il y a les petits.
Ah ben ça, c'est assez étonnant comme question.
Sur 20...
C'est la meilleure question aujourd'hui.
C'est la meilleure question.
Cette année.
C'est la meilleure question de la journée.
Et sur 25 millions, seuls 850 000 n'ont pas été retrouvés.
Des coquillages?
Non.
Des soldats?
Non.
Ça a à voir avec des livres?
Non.
J'aime bien quand Fabrice il a un petit peu de poésie en lui.
C'est un chiffre des coquillages.
Plutôt un nombre énorme, hein. 25 millions.
C'est énorme. Pardon Laurent.
Et sur 25 millions, bah, on en a retrouvé 24 millions 150 000.
Des papillons.
Donc on avait perdu 25 millions de quelque chose.
Oui, oui,
des libellules.
Des libellules.
Des
libellules. Pourquoi des libellules?
Il est dans son quart d'heure poétique.
Tu m'écoutais pas, mais j'étais bien quand Fabrice a de la poésie, je trouve.
Oui, mais d'accord, j'ai compris. Mais enfin, il va pas continuer à nous faire toute la liste des animaux poétiques.
J'essaie des choses.
Des petits chatons.
Ils sont cons ou quoi?
Je crois que c'est pire en fait.
Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de petits chatons qui sont perdus dans le monde.
Bah, c'est pour ça, c'est pas grave comme ça.
Et leurs propriétaires sont contents
mais
de
si
les retrouver.
Vous les
alors,
avez
du plus
retrouvé...
petit, on va passer au plus gros des dinosaures.
Non, mais c'est pas des animaux. Hein,
des clés, des clés, des clés.
C'est pas vivant,
ah,
c'est pas vivant.
Des clés, non.
Ah, mais on approche.
Et oui,
c'est quelque chose qu'on perd régulièrement et qui s'énerve. Oui. C'est des papiers.
Des portefeuilles.
Des portefeuilles d'identité.
Des parapluies.
Et d'ailleurs, ça concerne Olivier de Kersauzon.
Les bateaux?
Plus peut-être. Non, on perd pas 25 millions de bateaux chaque année.
C'est vrai.
Tous les jours. Il y a 25 millions de bateaux qui se perdent tous les jours. C'est l'heure du SOS alors, entre 11h30 et 11h47.
Ces 25 millions là de choses qui étaient perdues, c'était perdu au fil du temps ou ça a été perdu
en une année, j'ai dit en 2009.
Au fil de la nuit.
En 2009, 25 millions et on a retrouvé 24 150 000 et 850 000 qu'on a jamais retrouvé.
On s'en sert tous les jours de cet objet?
Pas tous les jours, mais par exemple, Olivier de Kersauzon, plus que vous et moi.
Une boussole?
Non, 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 on n'a pas perdu 25 millions de boussoles.
Il y a un mec qui recense.
Je vais vous dire, il y a longtemps qu'Olivier de Kersauzon ne sert plus de boussole pour aller à Brest ou en Polynésie quand même.
Hein? De poupées gonflables?
Non, c'est pourtant, mais alors.
C'est pas un jeu de mots,
mais
c'est
non,
pas du temps perdu.
Non, des billets d'avion.
Pas des billets d'avion.
Des billets de train, des billets
bagages,
d'avion.
Des bagages.
Les bagages dans les aéroports. Merde. Bonne réponse. Dans le monde entier, hein, pas seulement en France, je vous rassure, dans le monde entier, 25 millions de bagages ont été perdus, provisoirement ou définitivement. Heureusement, effectivement, 24 150 000 ont été retrouvés, c'est-à-dire que les gens les récupèrent, leurs bagages, mais il y en a quand même 850 000 bagages qui sont jamais retrouvés. Les propriétaires n'ont jamais de nouvelles de leur brosse à dents et autres vêtements.
Oui. Ça m'est arrivé moi, déjà plein de fois.
Alors, les bagages sont égarés lors du transfert, dans 52% des cas, c'est-à-dire qu'un bagage sur deux perdu est perdu quand vous avez une correspondance, une connexion.
Ouais, une connexion. C'est ça.
Voilà, ça c'est 50% des cas, ça. Mais il faut savoir quand même que dans 16% des cas, ça c'est intéressant, il se trouve que le bagage ne quitte jamais l'aéroport de départ. C'est-à-dire que cherchez pas où il est, votre bagage, il est là où vous êtes, d'où vous êtes parti. C'est-à-dire qu'il n'est pas parti.
Il y a des bagages qui changent d'avis. Les gens en profitent pour pas suivre leur compte propriétaire, ils changent de destination.
Moi, à qui c'est arrivé, je peux dire, en tout cas si je peux dire, un petit conseil à vous donner quand vous voyagez en avion.
Des conseils pour voyager, qu'on se marre un peu. C'est les conseils de Tonton Ruquier pour bien voyager.
Alors,
dans la main ou sur le dessus du sac ou en dessous?
Non, c'est pas ça. Quand vous êtes deux et que vous voyagez,
parce que tu voyages à deux, toi.
Ça m'arrive régulièrement, cher Olivier.
Ah bon? Non, mais j'aimerais bien voir, c'est tout. J'écoute.
Venez, nous serons trois.
C'est uniquement sur Air Nikonos. Hein.
Il y a bien un pays que j'aime pas.
Il a un compte grand voyageur.
C'est bien la Grèce.
Ou alors.
Alors, il y a un truc. Non, mais vraiment. Alors, faites attention quand vous enregistrez vos bagages. Non, mais je vous donne un petit conseil.
Vous placez le micro devant la poignée de la valise.
Non. Quand vous enregistrez vos bagages, faites bien attention à ce que.
Ils mettent l'étiquette.
Que ça, l'étiquette, qu'elle soit mise, c'est sûr. Mais que ce soit bien l'étiquette de votre nom qui soit sur votre bagage à vous. Et non pas l'étiquette de la personne avec qui vous voyagez. Parce que si vous perdez votre bagage et que sur votre bagage, c'est pas votre nom à vous, mais le nom de la personne avec qui vous voyagez, macache pour les retrouver tes bagages. Tiens, parce que t'es là avec ton papier d'identité à dire alors voilà, je m'appelle monsieur machin.
Mais
votre bagage, il a été délivré. C'est tout un bordel. Ouais. Et là, croyez-moi.
Ah ben, ça, c'est un bon conseil.
Vous passez 4 heures à l'aéroport à essayer de retrouver votre bagage.
Bravo.
Ah ouais, là, moi, je suis.
Julien Courbet, Laurent, il a jamais donné des conseils.
D'autres conseils pratiques, Laurent, pour les voyages, peut-être.
Non, mais forcément, vous voyagez tout seul, vous n'avez pas de bagages, vous, Olivier.
Non, mais attends, moi, j'emmène pas des robes partout où je vais.
Donc, quand même, vous avez une brosse à dents.
Même pas. Ça se trouve partout, les brosses à dents. Vous n'avez pas emmené une brosse à dents.
C'est pas faux, mais.
Vous allez, ben, c'est ridicule d'emmener des bagages.
Ils sont tout mignons. Ils partent tous les deux, Michel avec son sac baba.
Ouais.
Et Laurent, il a des sacs Hello Kitty, il a toute la gamme, comme ça.
Ça, faut se méfier de ça aussi, parce que ça m'est arrivé.
Non, parce qu'en plus. Oui, et après, ils sont là. Ah non, t'as encore mis le ticket sur mon bagage.
On a bien dit, les sacs baba, c'est
non, je suis en peur de mon bagage, tu vois. Je joue, arrête-toi.
Tu vas me prêter tes slips pendant 15 jours.
Non, mais je déconne pas, il y a un autre truc. Alors là, deuxième petit conseil. Non, parce que voilà, j'ai toujours des problèmes, il faut le savoir, dans les aéroports, dans les bagages. Et deuxième petit conseil, n'ayez pas une valise qui ressemble aux autres valises. Ça, alors là.
Oui, mais ça, c'est pour le fun, ça.
Ça, vraiment, mettez des autocollants, des machins,
tout ce que vous voulez.
Mais alors, ça, moi, ça m'est arrivé à la Guadeloupe. Alors, je suis là, j'attends devant le tapis. Puis je vois, il restait plus qu'un bagage sur le tapis. Tous les autres voyageurs étaient partis. Puis quand même, au bout d'un moment, j'ai réfléchi, je me dis, s'il reste que celle-là.
C'est perdu de vue, votre.
Il reste que moi dans l'aéroport.
Il reste que moi dans l'aéroport.
Donc.
Et elle ressemble à ma valise. Mais ce n'est pas ma valise. C'est donc que quelqu'un a pris ma valise.
Bah oui. Il a pas dû être déçu en l'ouvrant.
Ah oui.
C'était une petite valise.
Ouais. Plein d'objets en plastique.
Alors, autre conseil. Alors, en ce moment-là, démerdez-vous vous-même. C'est-à-dire, vous prenez le bagage, vous fouillez dedans, vous recherchez à qui elle appartient, puis vous allez directement chez la personne et puis vous échangez vos bagages. Parce que si vous êtes passé par l'aéroport, oui, c'est pareil, ça prend au moins 48 heures avant qu'il retrouve la personne, que la personne ramène la valise. D'autant que j'avais constaté que dans la valise, c'était la valise d'une fillette qui n'avait que ses affaires de classe, de devoirs d'école. Ouais. Et c'était les vacances scolaires, je me suis dit, tu parles que la gamine qui va à la Guadeloupe,
elle va pas
ouvrir sa valise avant 48 heures, elle va pas savoir tout de suite que c'est pas la sienne.
Surtout quand elle a ouvert la tienne, que tu avais des accessoires de jeu pour jouer avec Joujou.
Quand je disais Hello Kitty, il a bien le même bagage que des gamines de 8 ans. Là.
Mais non, c'est la petite valise d'Aïssé.
Oui, je suis à 8 ans, la petite valise d'Aïssé. Autre conseil.
Autre conseil.
Moi, ce qui m'est arrivé, c'est un truc qu'il ne faut jamais faire, c'est que je revenais des Antilles, en fait. Ouais. J'ai mis 40 kilos de cocaïne dans mes bagages. Il ne faut absolument pas faire ça, parce que c'est interdit, en fait, et je me suis fait arrêter.
Voilà. C'était le troisième conseil de Fabrice. Oui. On se retrouve après les titres de 17h.
On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier.
Jusqu'à 18h30. Laurent Ruquier sur Europe 1.
On va se gêner.
C'est la deuxième heure de l'émission. Toujours avec Titoff, Isabelle Motreau, Philippe Alfonsi. Et peut-être vous entendrez Philippe Alfonsi dans la deuxième heure de cette émission. Fabrice Eboué. Jérémy Michalak. Et monsieur Olivier de Kersauzon. Sans oublier Allah de Lyon et Stéphane d'ici les Moulineaux. Bonjour Allah.
Bonjour Laurent, je suis ravie de vous entendre.
Ça s'écrit A2LA, Allah.
Oui, tout à fait. Sans le H à la fin.
Sans le H à la fin. Ça vient d'où Allah alors?
C'est un ordre. À la cuisine, à la vaisselle.
Oui, ça vient d'un pays avec une grande tradition machiste, oui, tout à fait.
C'est vrai, mais alors quel pays?
C'est la Russie, hein.
Non, mais vous voyez, on l'ignorait. Ouais, c'est donc un prénom russe. Vous êtes d'origine russe?
Oui, tout à fait, oui. Bon. Soviétique, mais bon.
Soviétique, hein.
Привет!
Привет, как дела?
Хорошо. Хорошо, очень хорошо.
Поговорим по-русски, замечательно.
Да, да, да.
Ça se termine toujours comme ça avec lui.
Non, 200 francs, 200 euros la pipe. Moi.
Bien sûr, c'est pas cher.
Fabrice Durac. Durac.
Qu'est-ce que vous faites à Lyon?
Je t'ai bien insulté là, connard.
Qu'est-ce que vous faites à Lyon, Allah?
Écoutez, je suis consultante en stratégie de négociation et coach.
Stéphane va être beaucoup moins intéressant forcément à ici les Moulineaux. Pardon Stéphane.
Il est d'origine italienne, je crois. Vaffanculo Stéphane.
Je suis bilingue.
Bonjour à vous.
Bonjour Stéphane, qu'est-ce que vous faites à ici les Moulineaux, vous?
Moi, je suis responsable patrimoine pour l'agglomération de communes.
Et alors, vous travaillez avec Monsieur Santini, ça veut dire?
Entre autres, oui.
Entre autres. Ouais. Il a le moral, Monsieur Santini, là, avec ici les Moulineaux qui est passé à gauche au régional?
Depuis, je ne l'ai pas trop croisé, donc...
Il se cache.
J'espère qu'il va bien, mais bon.
Bon, ben on lui souhaite aussi. Merci. Stéphane et Allah, vous allez peut-être partir pour Saint-Rémy-de-Provence. Et oui, c'est notre dernière journée dans l'hôtel 4 étoiles Vallon de Valrugue. Et vous passerez 3 jours et 2 nuits là-bas, entre Arles et Avignon, si vous répondez à la question suivante.
Mardi dernier, un détenu de la prison de Nancy a arraché un lampadaire, brisé un volet métallique, puis défoncé une vitre à coups d'extincteur pour atteindre le bureau des surveillants de la prison. Il a fini par s'asseoir dans le bureau, se rouler une cigarette et attendre qu'on vienne l'y cueillir. Il avait déjà mis en pièce sa cellule en octobre dernier à Épinal. Ma question, c'est tout simplement, comment surnomme-t-on ce prisonnier à Nancy ?
Davaï, là, davaï.
Oui, ça c'est lié à quoi? Parce qu'il aime fumer, on ne l'autorise pas de fumer dans le prison?
Non, non, je sais pas pourquoi il était en colère.
C'est mignon cet accent. Hein.
Mais là,
on le surnomme Hulk.
Hulk.
On le surnomme Hulk.
L'incroyable Hulk. Bonne réponse d'Allah.
Voilà. Comment elle a trouvé ça, elle?
Où est-ce que vous avez trouvé la réponse?
Oh, mais écoutez, c'est mon esprit de déduction et d'analyse qui a travaillé.
Ouais, tu parles. Elles sont bien menteuses, les Russes, hein.
C'est drôle.
Vous êtes entouré. Je suis sûr qu'il y a un copain qui était en train de regarder ou chercher sur Internet, non?
Ah non, 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 non. Mon copain, il n'églandouille pas à la maison vendredi matin. Il est au boulot.
Oh là, Tito, oh, je comprends mieux la vie que tu vis. Hein.
On combattit. Hein.
Mais alors, vous-même, vous avez cherché sur votre iPhone ou sur un ordinateur?
Non, 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 mais j'ai tapoté très vite sur Internet, oui.
Et ben voilà, oui, elle est forte, là. Il n'y a rien à dire, Stéphane. Hein.
Oui, moi j'avais tous les journaux d'hier, et voilà.
Ah oui, mais alors c'est mieux avec les journaux du jour, vous voyez.
Ah, les Russes, ils ont toujours un pas d'avance hein, sur les Français.
Bien sûr.
Ah oui, Est-ce la pète, l'autre?
Alors, t'as gagné un voyage. T'as gagné un voyage en charter, d'ailleurs.
Est-ce la pète, c'est son deuxième prénom.
Alain, c'est la pète. Bravo, Stéphane. Hein.
Stéphane.
Mais ça, j'ai appris aussi cette expression.
Ah, mais
la pète, oui, c'est drôle.
Ben oui, mais vous avez l'air bien sympa, on est content que vous nous écoutiez régulièrement. Qu'est-ce qui vous amuse, qu'est-ce qui vous plaît dans l'émission, Alain?
Ben écoutez, j'adore votre esprit d'autodérision et je crois que votre émission, c'est encore l'une des dernières où quand même vous pouvez rigoler un peu de tout parce que ça devient un peu triste. Hein.
Ah, ben bravo, wow, c'est gentil. Ouais. Merci pour ce compliment. On vous embrasse, Alain, et j'espère que vous passerez
bien.
Excuse-moi, Paka. Alain, comment on dit dans le cul, Stéphane, en russe? Napopo.
On va dire Zadnice.
Et avec qui vous allez partir à Saint-Rémy de Provence, Alain?
Oh, avec mon chéri.
Ah, comment il s'appelle?
Ça dépend des soirs.
Jean-Yves.
Comment?
Jean-Yves.
Jean-Yves.
Jean-Yves, ouais.
Ils sont deux. Ils sont deux.
Ah, parce que c'est que des chambres pour deux dans l'hôtel 4 étoiles, Vallon de Valrug.
Ah, dommage, ben, il faudra que je choisisse.
Le temps d'un week-end, vous allez vous ressourcer dans cet hôtel Vallon de Valrug où il y aura un sauna, un jacuzzi, une très belle piscine, un tennis même.
Des moustiques, des rats, des araignées, des serpents.
Ouais, les jaloux.
Des scorpions.
Quand vous ouvrirez les fenêtres de votre chambre de l'hôtel Vallon de Valrug.
Je connais cet hôtel, j'y étais déjà en week-end, je crois que je connais.
Oui, elle fait beaucoup d'hôtels.
Mais bon.
Vous découvrirez la beauté des Alpilles et des oliveraies. Et on vous embrasse, Alain, et j'espère que vous ne nous en voulez pas, Stéphane.
Non, pas du tout, ça sera pas mal.
Non,
pas
mais
ciao. Ciao, Stéphane.
Ciao.
Ciao,
Bella.
En tout cas, je trouve, Stéphane, que vous parlez très bien la langue d'ici les Moulineaux. Bravo. Merci à tous les deux.
Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, s'en va gêner entre Laurent Ruquier avec ses complices. Une question qui concerne plus particulièrement ce cher Olivier de Kersauzon.
Quand Olivier de Kersauzon va arriver à Shanghai au mois de mai prochain pour l'exposition universelle 2010, quelle jolie jeune femme va-t-il retrouver sur place?
La sirène de Copenhague.
La sirène, la petite sirène de Copenhague. Bonne réponse.
De Titoff.
De Titoff. Eh oui.
Là, qui veut lancer le public, tu sais. Ouais!
La petite sirène du comte d'Andersen qui orne le port de Copenhague au Danemark est partie pour Shanghai, accompagnée par des chants d'enfants. La voilà partir sur le port de Copenhague.
Et, belle, hein.
Et elle va arriver là-bas à Shanghai et elle va attendre patiemment qu'Olivier de Kersauzon se rende lui aussi à l'exposition universelle. Vous m'avez dit que vous y alliez, alors je me suis permis.
Elle m'attend, je la connais.
Ouais. Vous connaissez la petite sirène, les marins restent attirés encore par les sirènes.
Ouais.
Elle n'est pas dans une position vraiment de
levrette, non. Elle a le cul collé au caillou, faut un marteau piqueur. Hein.
quand tu prends une sirène en levrette, tu l'attrapes par la nageoire, ouais. Comment ça se passe?
C'est une sirène, c'est une femme avec un corps de thon.
Oui, Fabrice.
Non, mais je voulais savoir si Olivier avait déjà croisé une sirène pour de vrai.
Bah non, ça n'existe pas.
Ça n'existe pas, les sirènes.
Bah, non, les sirènes, c'est des travelots, en fait. Pourquoi? C'est des femmes avec des queues.
Oui.
Oh. Ah, voilà.
Restons dans un domaine cher à Olivier de Kersauzon.
Mais pourquoi non, vous pouvez aller ailleurs.
Le Stena Hollandica est le plus gros du monde. Le plus gros, quoi? Le Stena...
C'est un bateau, ça.
Paquebot.
Paquebot. Je vous demande d'être plus précis.
Bateau de croisière.
Vedette. Yacht.
Non,
pas trimaran. Trimaran.
Pas bateau de croisière.
Catamaran.
Catamaran.
Non.
Sous-marin.
Non.
Bateau à voile.
Non.
Bon, ça va sur l'eau quand même.
Oui, ça va sur l'eau.
De croisière.
Non, pas de croisière.
Canoë.
Non.
Pétrolier.
Non, pas pétrolier.
Kayak.
Non.
C'est le plus gros bateau, mais qui flotte pas.
Ah, c'est. Il flotte. Il fait 240 mètres de long. On peut...
Porte-avion.
Non.
Si, c'est ça.
Il doit effectuer aujourd'hui un test avant d'être opérationnel en mai prochain en mer Baltique et mer du Nord.
C'est un ferry.
Un ferry, le plus gros cargo ferry du monde. Bonne réponse. C'est la compagnie suédoise Stena Line qui lance sur mer ce plus gros car ferry du monde. On peut y mettre 320 camions, 1200 passagers. C'est assez énorme. Je me posais la question, ça. C'est en voyant cette info, j'ai eu envie, en fait, de poser cette question. Parce que tout de suite, je me suis dit, mais alors, quand on est un grand navigateur comme vous, qu'on sait naviguer sur un voilier, catamaran, trimaran, tout ce que vous voulez, est-ce qu'on saurait conduire un car ferry? Enfin, un car ferry, un car.
Évidemment.
Ah ouais?
J'ai des diplômes pour.
Qu'est-ce que vous faites des films?
L'effet de sémaphore.
Qu'est-ce qui se passe, Fabrice Eboué, Titoff? Je parle avec Olivier de Kersauzon, on a une conversation sérieuse.
Est-ce qu'il saurait, il a le diplôme pour?
Ben oui,
et alors?
Voilà, mais c'est intéressant, mais c'est pas pour autant que, je sais pas, moi, par exemple, un pilote de Formule 1, c'est forcément conduire un tracteur, vous voyez, ou un autobus.
Il y a quand même des équivalences.
Ah oui?
Sur les compagnies africaines, souvent, c'est les conducteurs de métro qui prennent les avions aussi.
Non, mais c'est intéressant, ces métiers. Là aussi.
Philippe Alfonsi va enfin donner de la voix. Et justement, pour parler d'une voix qui s'en va, puisqu'il s'agit d'un chanteur qu'on ne connaissait pas très bien, mais en revanche, il avait fait un fameux tube. C'est bien ça, Philippe?
Ah bah écoutez, de toute façon, c'est vrai que si vous, à moins que vous soyez un fondu de rock, hein, et que vous aimiez tout ce qui est marginal, un peu underground, je suis sûr en effet que vous ne connaissez pas, ou du moins que vous avez oublié Alex Chilton. Voilà, ben lui il connaît. Mais enfin, on va quand même prendre une petite madeleine sonore si vous voulez bien. Écoutez ça, vous allez voir, ça vous connaissez. Et voilà.
Faut que je m'achète des dogs, des Santiago.
On va y passer en entier à la fin.
Et voilà, tout de suite ça revient, c'est The Letter, qui était donc le grand succès de la fin des années 60.
Et il est mort.
Alex Chilton, eh oui, voilà, à 59 ans, il a été balayé par une crise cardiaque. Je vous dirai pourquoi tout de suite, là. Bon, c'était exactement 1967. Il avait 16 ans, le gamin, là.
Quand il chantait ça?
Ouais, il avait 16 ans.
Voilà.
16 ans. Oui, il avait une voix magnifique, une gueule d'ange, des cheveux longs, un talent musical formidable, et son groupe s'appelait The Box Top.
Ouais, c'est ça, Box Top.
Voilà.
The Box Top, c'est la chanson The Letter.
The Letter. Et The Letter était un tel succès, ça a été monté bien, numéro un au chat américain, puis anglais, européen, etc. Succès que Joe Cocker l'a immédiatement intégré. Il en a même fait une de ses chansons fétiches parce qu'en 1970, il la chantait tout maigre avec des cheveux longs et puis espèce de rage formidable. Mais une version d'ailleurs un petit peu plus couillue que celle de Chilton. Et en 2007, à nouveau, il chantait toujours cette chanson. Il l'avait absolument pas abandonnée. Mais qu'est-ce que tu fais à faire le sémaphore depuis une heure?
Mais pourquoi faites des gestes depuis 20 minutes?
Je sais pas ce qu'il fait.
Pas du tout, je conduis avec les jeunes, c'est important.
Ah oui, c'est ça.
Mais les jeunes, c'est pas des sourds.
C'est pas
les sourds-muets de Benoît XVI.
C'est le bordel.
Tu déconcentres pas, Philippe. Tu déconcentres pas.
Mais je comprends pas, moi aussi, je vous vois faire des signes.
Non, mais il drague, je crois. Non.
C'est fou, ça. Alors, bah, qui t'a dragué, alors
C'est un peu direct, là.
Je sais pas, moi.
Mais on comprend beaucoup de choses avec des gestes, par exemple.
Allez-y directement, quoi. Alors, Philippe, Alex Chilton.
Alors, est-ce que, je sais pas si vous vous souvenez des autres succès de ce groupe. Il y avait aussi Cry Like a Baby et Choo Choo Train, qui ont été deux énormes succès également. Bon, mais bref, ce monsieur était un petit peu
Bon, on peut pas y aller. Là.
Quoi ?
J'ai rien fait pour le coup, Philippe. Oh, Philippe, j'ai rien fait.
Non, non, ça va,
ils sont cons, rien. Hein.
Mais
qu'est-ce qu'ils font alors ?
Je vais à la radio d'abord, Philippe.
Attends. Ah non, j'ai rien fait, Laurent.
Mais pourquoi vous faites des gestes ?
Ah non, là,
à qui vous faites des gestes ?
Je demande parce que voilà.
Quoi, non, mais traduis tes gestes parce qu'on aimerait comprendre.
Alors, au départ, j'ai parlé avec le monsieur à la cravate.
Ouais.
Avec des gestes, j'ai compris que c'est lui qui baisait le plus dans sa classe. Et il m'a dit effectivement, la cravate y est beaucoup. Ensuite, en parlant avec eux, j'ai compris qu'il baisait le monsieur avec la mèche ici. Donc c'est ça, voilà, donc c'est toute une histoire de voilà qui fait de la batterie et de la guitare. C'est pour ça qu'on communique comme ça. Voilà.
D'accord, d'accord.
On a compris que c'était pris un râteau aussi par, voilà.
Par Mademoiselle.
Par Mademoiselle, ouais, voilà.
Ah, je vois que dites donc, ils vont repartir avec de bons souvenirs les Lillois d'ici.
Si ça, Alex, c'est pas de la communication.
Alex.
Et j'ai compris que celui qui baisait le plus, c'était le prof.
Mais ça, c'est classique, ça, alors. Hein.
Alex Tilton, notre prof à nous, en rock et en pop aujourd'hui, c'est Philippe Alfonsi. Alors, donc, son groupe, les pop...
Box-top.
Les box-top,
box,
oui, bon.
Top.
Bah, ils se fâchent avec eux très, très rapidement. Ils font une bulle. Seulement, ils se fâchent avec les producteurs. Et ils se tirent à New York pour essayer... Bah, là, il devient vraiment un musicien très, très pointu. Et il retourne dans son... pays d'origine, Memphis. Vous vous rendez compte, ce jeune homme qui avait quand même l'effet de la musique sur son berceau est né dans la ville de Presley, donc c'est là qu'il revient bien évidemment et qu'il fait et qu'il crée le sans doute le groupe qui restera un des groupes les plus connus dans la musique américaine, pas de vous, pas d'ailleurs du grand public, mais qui s'appelait les Big Star. Figurez-vous que les Rolling Stone, le magazine musical américain Rolling Stone avait quand même classé les albums de ce groupe Big Star dans la liste des 500 albums les plus beaux de tous les temps. Bon, du jour au lendemain, ce garçon est devenu, est passé de la musique commerciale à l'underground.
Et pourquoi alors il est mort à 59 ans? C'est vachement jeune, 59 ans.
Ah oui, bah parce que ce monsieur, voilà, il avait un petit caractère bizarre. Il a touché à la drogue, comme il se doit. Il a touché à l'alcool. Et puis, comme il s'en sortait plus, il a été obligé de faire des petits boulots un petit peu tristes, quoi. Il a été plongeur. Il a même été bûcheron. Donc à 59 ans, bah, le corps a lâché parce qu'il avait un tout petit peu retiré. Ça l'a pas. C'est pas pour autant qu'il avait abandonné la musique, hein. Il l'avait continué en solo. Si vous voulez, aujourd'hui, c'est vraiment sans doute le musicien de référence pour tous les groupes anglais et américains vivants. Mais malheureusement, comme vous l'avez tout à fait dit au début, c'est un type qui a été totalement oublié. C'est ce qu'on appelle, je crois, un formidable loser magnifique. Voilà.
Alors, il n'avait donc que 16 ans quand en 67, il chantait avec son groupe de l'époque. Hein, donc, pas les Big Star à l'époque, mais The Box Tops quand il chantait ce tube mondial, The Letter. Give me a ticket for
an aeroplane. Jusqu'à 18h30, on va gêner et l'ami Yago nous rejoint.
Europe 1, on va se gêner.
Doré mi facile.
Doré mi facile. Yado.
Direction la Corée avec Serge Liado. Bonjour.
Bonjour.
Pour une chanteuse coréenne.
Qui reprend un vieux tube des années 80. C'était Nuit de folie. C'était chanté par le
début
duo
Début de soirée.
Et c'est pas une adaptation. Elle est persuadée qu'elle chante en français. C'est ça qui est intéressant.
C'est comment ça, elle est persuadée qu'elle chante en français?
Eh bien, parce que ça a été retranscrit phonétiquement. Voilà, les gens sont persuadés que c'est du français là-bas en Corée. C'est peut-être avec ça que les jeunes Coréens apprennent le français. C'est du yaourt, voilà. Le yaourt est aujourd'hui coréen.
Alors, donc, Nuit de folie, le tube de début de soirée, chanté dans les années 80 par une chanteuse de 22 ans, mais qui est coréenne et qui croit chanter en français.
Tu sens la musique au bout de tes doigts. Tu sens
soirée made in Korean. Bravo.
Ça cartonne sur Internet en ce moment.
Il y a le clip qui va avec, qui est formidable.
Ah oui, le clip est encore mieux, évidemment. Il y a une chorégraphie, une Corée du Sud.
Évidemment. Bravo, Serge. Bon week-end, à lundi.
Bravo, hein.
Cette nuit, à Rennes, ils étaient 4000 à s'être réunis grâce à Facebook. Ouais, mais pour faire quoi?
Apéro.
Apéro.
Apéro. Apéro géant. Ouais.
Apéro géant à Rennes. Bonne réponse. Ça vous a pas échappé, ça. Ah, bravo, Titoff. Et Fabrice. 4000 Rennais, ben voilà, c'est encore les Bretons. On va encore dire que ce sont les Bretons qui picolent, qui picolent. C'est quand même eux, les Bretons, qui sont réunis à 4000 pour un apéro géant.
Il y en a qui ont dû se faire escroquer. Bon, bah, t'amènes l'alcool. Ouais, ouais, pour 4000 personnes, tiens, le mec.
C'est un mec avec une bouteille de jus d'orange.
Apéro géant, sans incident grave, nous dit-on. Bon, mais faut dire qu'il y a quand même eu une vingtaine de jeunes qui étaient totalement ivres ou qui ont été blessés.
Sur 4000,
Rennes, le jeudi soir, ça va pas non plus d'exception. Quoi.
Quelques bris de verre et quelques jeunes quand même pris en charge par le poste de secours. Une demi-douzaine aussi qui avaient trop bu, qui ont été évacués par ambulance. 4000 personnes réunies pour un apéritif. Les jeunes se sont assis par terre en cercle autour de sandwichs, de chips, de canettes de bière, de grandes bouteilles de plastique remplies. Donc là, on imagine un peu plus d'alcool, hein, des couleurs aléatoires, nous dit le journaliste du Parisien Yves Pouchard. Je pense que c'est que des alcools aux couleurs aléatoires. Il y a quelqu'un qui dit, ah bah moi dans ma bouteille c'est un tiers vodka, un tiers whisky, un tiers Malibu et un soupçon de jus d'orange.
C'est bien avant de conduire, ça marque.
Qu'est-ce que vous prenez vous en apéro? On n'a jamais pris l'apéro ensemble. Qu'est-ce que on serait là puisque vous partez là ce soir, Olivier, on va s'offrir un petit apéritif pour votre départ, un petit pot de départ. Qu'est-ce que vous prenez Olivier vous en apéro?
Non, je bois jamais d'alcool.
Jamais.
Du vin le samedi et encore pas tous les samedis.
Vous prenez quoi Fabrice en apéritif?
Jamais d'alcool moi.
Jamais d'alcool non plus.
De temps en temps. Apéro, je prends soit du whisky, soit de la vodka, soit du rhum.
Mais jamais
après,
d'alcool.
Du vin en repas et du Dijon, mais pas d'alcool.
vous dites qui est-ce que c'est vraiment le pastis ou le Ricard hein?
Alors, moi, je du rosé.
Ah, du rosé.
Le rosé quand, au printemps. Et c'est vrai que le pastis, mais il faut que ça soit vraiment bien, bien servi avec la vraie carafe en terre cuite, les glaçons, et avec un petit peu de sirop d'orgeat. Et là, oui, tu regardes la mer, tu manges des petits tapas, et c'est un art l'apéro.
En parlant de ça, moi je serai demain au Salon des Vins en porte de Champéret. Hein. Non, mais c'est vrai, comme tous les gens.
Je croyais que vous étiez chez Mickey ce week-end.
Ah, mais avant, il m'a picolé,
justement. J'ai absolument tenu à aller chez Mickey le soir, c'est que tout l'après-midi, je serai au Salon du Vin. Donc, j'ai parlé avec des gosses, avec Hélène Avinet, c'est ça qui m'intéresse. Eh bien, on fait le tour de manège. Tiens, insulter les caractères. Hein. Buzz l'éclair, espèce d'enculé. Là.
Tu sais que t'y es pas encore, là.
Mais non, mais je ne serai pas, c'est pour ça que je l'insulte hier, je faisais l'éloge de Buzz l'éclair.
Mais finalement, vous avez
refusé. Ils m'ont refusé la nuit. Donc
vous avez préféré le Salon du Vin, finalement.
Exactement.
Salon du Vin,
c'est une magie, le Salon du Vin.
Avant le Space Mountain, ça peut être pas mal.
Bien sûr. Au début, t'es tout timide, tu sais, t'arrives avec ton petit. Il te donne un petit verre, comme ça, puis t'as un petit truc pour l'attacher autour de ton cou, puis tu demandes, comme ça, timidement, au bout d'un stand, deux stands, puis après, c'est défile-moi ta piquette, maintenant.
Et si tu vas tous les ans
tous les ans. Porte de Versailles à Noël, Champéret au mois d'avril.
Ça t'emmène samedi, parce que.
Mais
jamais ans, il boit que le samedi.
Mais Salon du Vin, ça, c'est ridicule. C'est quoi? C'est pour faire votre cave?
Salon des vignerons indépendants.
Vous achetez, vous achetez?
Ah oui, j'achète beaucoup. Je débusque. Ouais.
Vous débusquez?
Je débusque le vin.
Et alors, qu'est-ce que vous avez eu comme petit vin qui était agréable et bon et que vous pouvez nous conseiller? Parce que moi, je conseille pour les bagages, vous êtes conseillé pour le pinard.
Non, bon, l'essentiel, c'est justement le contact.
Il faut mettre une étiquette avec ton nom sur la bouteille. Si on te la pique, oui, c'est vrai.
Si vraiment vous voulez y aller pour vous bourrer la gueule, c'est le lundi. Il faut y aller le lundi, ça ferme à 20h. Et souvent, ils laissent les bouteilles entamées comme ça que les gens goûter et non, vous pouvez faire une rasier à ce moment-là et vous bourrez la gueule très rapidement.
Ah, je vais finir au goulot.
En fait, toi, c'est pas du tout une dégustation, c'est juste pour te bourrer la gueule en fait.
Non, moi j'y vais
avec modération.
La gueule gratuite.
Je suis connaisseur sur les 4 premiers stands.
Ouais, puis tu peux surfer sur le vomi sur le parking.
En bon vin, il y a les Savigny.
Je suis jamais allé dans un salon du vin, je dois dire.
Moi non plus. Ouais.
C'est curieux quand même, vous avez des distractions curieuses. Ça, mais non, franchement.
J'y vais depuis très, très jeune.
Et vous avez préféré ça à Mickey finalement.
Ouais.
Mais tu fais aussi le salon du chocolat. Non, c'est vraiment que le vin.
Pas bien d'être raciste comme ça. En tout cas, je tiens à le dire aux Nantais qui nous écoutent.
eux aussi pourront faire un apéro géant le 12 mai prochain, puisque évidemment c'est une mode qui va se lancer. Là, c'était sur la place Charles de Gaulle de Rennes. Et les Rennais remettent ça aussi le 12 mai prochain.
Il n'y en a pas déjà eu un à Nantes avant celui-ci?
Ah non.
Il y avait eu 50 comas éthyliques. Je crois qu'il y en a eu un précédent avant Rennes.
Ouais, 50 comas éthyliques. Mais à Nantes, c'est tous les jours.
Ouais. Mais moi, ce qui me dérange surtout, c'est qu'un apéro, Laurent, ça se prévient pas.
Ouais, c'est,
bah, c'est la, ce qui est rigolo, c'est quand c'est imprévu. Ah quand oui. T'as plein de trucs à faire et tu dis non, je dois y aller, laisse-moi y aller. Bon, 5 minutes. Et que tu rentres, tu as commencé l'apéro à 19h et que.
Et puis t'arrives en retard.
Et tu rates l'émission le lendemain. Ça, c'est ça qui est rigolo, c'est quand c'est pas prévu.
Ah ouais. Ah non, moi, un apéro, j'aime bien prévoir les petits biscuits.
Ah bah, ça, c'est une soirée.
Les tucs.
Non, moi, je parle pas
d'un. Les tucs, c'est
ça. Ça, c'est à la maison quand tu reçois.
Ah, les tucs.
Je prendrai un apéritif rien que pour les tucs et les bretzels.
Ah, les bretzels. Ah, ouais, ouais. Alors t'aimes les bretzels qui sont
les longs qu'on peut grignoter.
C'est trop bien.
Il faut du pain grillé.
Les autres, c'est trop mathématique.
Ça donne mal à la tête au bout d'un moment.
Ah, moi, c'est les petites saucisses qui donnent mal à la tête.
Les petites saucisses.
Les petits boudins.
Il faut pas manger les cœurs dents, tu sais.
Oh, un truc que je déteste, on voit ça partout maintenant, les tomates cerises.
Les knacky balls, c'est
moi
bon.
J'aime bien.
Les tomates cerises.
Avec quoi? Il faut prendre une pizza avec la pâte bien fine et couper des tout petits morceaux.
Ah, ça, c'est ce que je fais.
Bien sûr.
Ah, oui, voilà. Ça, je fais ça
pour les ringards.
Oui,
ça
tu fais un petit aioli aussi.
Il y a des patients de retraité à la con.
C'est vrai. Alors, moi, je coupe la pizza. Moi, je mets des petits bouts de quiche.
C'est les mecs qui font une heure sur les apéricules.
Vous prenez bien des petits biscuits à l'apéritif si vous buvez pas quand même, Olivier.
Non, je rends du mot, je trouve le mot apéritif, apéro, c'est un mot que je trouve horrible.
Moi qui voulais faire un petit pot de départ pour vous, là, alors. Ouais, rangez les bretzels.
Pot de départ, ça fait. C'est une connerie. J'ai pas de chance quand même. Enfin, si, parce que quand on a vécu ici quelques jours, on est vraiment content de partir.
Allez, dans un instant, nous parlerons du livre de la semaine. Quand le requin dort. Tiens, voilà. Ouais. Quelque chose qui peut-être va vous attirer.
Ah ouais, j'ai lu le bouquin.
Isabelle Motreau, Philippe Alfonsi, Olivier de Kersauzon. Quand le requin dort. C'est dans un instant qu'on en parle après la pub.
Votre rendez-vous divertissement de l'après-midi se poursuit sur Europe 1, sans va gêner.
Europe 1, on va se gêner.
Le livre de la semaine.
Milena Agus, quand le requin dort. Milena Agus est une romancière italienne dont on avait parlé il y a quelques années déjà du premier bouquin. Je me souviens à l'époque j'étais sur Paris Première, donc ça fait bien 3-4 ans de ça, 4 ans peut-être. Ça s'appelait Mal de pierre. Ouais. Le livre avait été encensé à l'époque par
celui-là
la
est moins bien,
critique.
Hein.
C'est moins bien. Oh, vous l'avez pas lu, Fabrice. Alors qu'est-ce que ça vaut quand le requin dort, Milena Agus, Isabelle Motreau.
Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, c'est son premier livre qui a été traduit tardivement chez nous.
Ça se peut que ce soit moins bien, parce que souvent, ça, c'est un problème, c'est qu'on réédite les premiers livres en pensant que, vu le succès des suivants, ils seront aussi bons.
C'est moins sophistiqué que Mal de pierre, ou je sais pas si vous... Enfin, il a été beaucoup, beaucoup lu, mais donc peut-être les auditeurs s'en souviennent, et il y avait des histoires mêlées Mal de pierre, entre Mal une grand-mère, une femme qui parlait de sa grand-mère, etc. C'était très, très comme ça, bien ciselé, bien mélangé. Là, c'est une structure beaucoup moins complexe. Ouais. Donc là, en fait, c'est bon, moins compliqué comme style, mais il y a toujours cet émerveillement qu'elle a pour les petites choses de la vie, pour les gens, pour le soleil, la lumière. Enfin, on ouvre ce livre et on se retrouve dans un monde à la fois plus lumineux et en même temps assez dramatique, parce qu'il y a des choses assez dramatiques et assez violentes dans le bouquin.
Ça vous plaît?
Et moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, ce qui est formidable aussi, c'est les portraits qu'elle fait des gens. Là, on voit une famille avec des femmes qui sont toutes un peu frappadingues, faut bien le dire, suicidaires ou non, mais en tout cas pas très claires. Et rien que les personnages sont un plaisir, quoi.
Alors, c'est aux éditions Liana Levy, ça s'appelle Quand le requin dort. C'est traduit de l'italien par Françoise Brun, et c'est donc signé Milena Agus. Vous, Alfonsi?
C'est le récit d'une jeune femme, d'une jeune fille plus exactement, encore une ado. Un peu grosse, un peu avec des gros nichons et un gros cul.
Ah, ouais. Et voilà, ça les a servis tout de suite.
Voilà. Tu ne dis pas ça, Isabelle.
Et, non, c'est pas ça.
Et qui va en effet faire le portrait de sa famille de fous. Alors, tous les hommes sont des hommes qui foutent le camp, des hommes qui voyagent, des hommes qui abandonnent leur famille, des hommes qui aiment les bateaux, etc., etc. Et toutes les femmes sont des femmes qui ont des problèmes sexuels assez graves, je dois dire. Alors, oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est quand même que la jeune ado, elle cache à ses parents qu'elle a une liaison avec un espèce de fou furieux, un espèce de criminel, un espèce de sexe maniaque invraisemblable, qui la bat, qui la torture, qui se fait torturer, etc. Enfin, ils ont des rapports sadomaso, et ça va très très loin. Elle rechute régulièrement comme ça. Bon, au passage, elle a une petite histoire d'amour avec un vétérinaire, et elle rechute chez les. Bon,
mais tu racontes
jusqu'au fait même qu'elle finit par être totalement défoncé dans la nage en mer de sang.
Non mais attendez,
c'est un petit livre, c'est pas très épais.
Vous voyez la poésie, quoi. Je veux dire, bon, il y a une poésie très forte dans ce livre, et c'est étrange. Voilà ce que je peux vous dire personnellement. Étrange.
Mais tu trouves pas qu'il y a un côté vraiment lumineux, vraiment en même temps? C'est ça qui est fort, je trouve.
Ouais, enfin ouais, moi bon. j'ai été un petit peu perdu par ce récit.
La violence par la violence.
Oui, Fabrice.
Bah, vous faites deux critiques assez intéressantes, ma foi, tous les deux, mais pourquoi ça s'appelle Quand le requin dort?
Ah oui, ça c'est
ah
pas
oui,
bête.
Oui, alors c'est vrai, tu as raison, c'est la bonne question, parce que le requin dans le livre, c'est la superstition. Alors, c'est une Sarde, hein, ça se passe en Sardaigne. Et c'est vrai que dans ces pays étranges,
tu sais pas quoi.
La Sardaigne à l'huile, vous dites, c'est
oh
ça.
Oh là là. On est plus, superstitieux que religieux. Et le requin, c'est le requin qui te tient dans ses mâchoires de la superstition. Et quand le requin dort, tu peux peut-être essayer de vivre. Voilà, c'est ça. D'accord. Pas te laisser bouffer par la superstition.
Donc c'est plus métaphorique, d'accord.
Oui. Voilà, c'est totalement métaphorique.
Pourquoi vous l'avez lu, vous qui prenez jamais les bouquins d'habitude, Olivier de Kersauzon?
Non, ben, je l'ai pas lu, justement.
Ah bon?
Il a tenté.
Je tiens à la remercier parce qu'il y a un des insomnies. À la page 13, j'ai décroché et j'ai vraiment bien dormi. J'ai trouvé ça d'un ennui torride. J'ai fait l'effort, en plus de regarder, de refaire des carottages de temps, d'un ennui. C'est vraiment mais plus chiant si l'annuaire du téléphone, peut-être. Et encore, moi, j'aurais peut-être des surprises avec les noms.
C'est
ouais.
Terrible. Non, puis je regarde page 13. En fait, la page 13, c'est que la deuxième, troisième page du bouquin. Parce que,
ah non, mais je parle des pages 13. Écrites.
Hein. Ah bon, d'accord.
Non, évidemment, si vous comptez le dos de la couverture comme une page, non.
Ah bah, je compte la pagination. Donc, vous avez lu 13 pages, donc.
Ah ben non, c'est peut-être la pagination. Alors,
page 13, c'est que la troisième page.
Oui, je me suis endormi en 45 secondes, je la remercie. Je la remercie.
C'est crédible.
Non, attends, c'est très ennuyeux. Non, mais
tu peux pas dire ça d'un livre dont t'as lu 3 pages.
Non, mais attends, mais avec le démarrage.
J'ai
fait des carottages. T'entends, tu sais, à chaque fois des trucs. C'est mièvre, c'est écrit par une gondesse molle, le cerveau pas intéressant. C'est des descriptions minables d'une famille de dingues qui est évidemment imaginaire et pas réelle, parce que les dingues réelles, c'est beaucoup plus vivant que ça. Et c'est vraiment un bouquin pour oisifs ménopausés, voilà.
Et ben voilà, c'est pour vous,
moi j'ai adoré, donc tu
ça m'étonne pas, j'ai bien dit que c'était pour oisifs ménopausés.
Alfonsi, vous laissez pas faire, enfin, pour Olivier de Kersauzon.
Il est pas ménopausé.
Réagissez. Je suis pas ménopausé, deux, je suis pas oisif, et troisièmement, je n'ai pas été emballé par le bouquin.
Bah ouais.
Je vous ai dit qu'il y avait, des choses, que je l'avais trouvé ça un peu tordu.
C'est pas un vrai imaginaire. Un vrai imaginaire, ça doit créer du charme. Là, ça crée que de l'ennui. Il y a une systématique malsaine de cette petite grosse dont elle est sans doute le réel personnage. En plus, elle doit être sale. Voilà.
Alors, si vous faites confiance en Isabelle Motreau, vous lirez Quand le requin dort.
Si vous ferez bien chier en lisant ça.
Le livre de Milena Agus, publié aux éditions Liana Lévy, c'est 15 euros. C'est un petit livre, hein, ça se lit assez vite. Quand même.
Surtout quand sur on s'appelle Olivier.
Et moi, je vous propose d'écouter et de découvrir un petit nouveau de la soul américaine qui nous présente un single qui s'intitule You're Easy Loving Ain't Pleasing No Sin.
À vos souhaits.
J'ai fait un effort là.
Ouais, bah justement, c'est
le
ça
nom du chanteur doit être plus dur à dire.
Mayor Hawthorn, qui sera en concert le 11 mai, si vous réussissez à le retrouver, au Trabendo. Ça va, c'est trouvable.
Vous devriez prendre des chanteurs espagnols, vous seriez peut-être moins mauvais, non?
A Strange Arrangement, c'est le titre de son album.
A Strange Arrangement.
Your Easy Loving Ain't Pleasing Now Sing, Mayor Hawthorn.
Europe 1, on va se gêner.
Ciné.
Motro.
Ah, pan pantan, pantel, voilà, j'y arrive. Bonjour Monique. Ah, Fabrice est très content de vous écouter parce qu'il suit vos conseils cinéma tous les week-ends.
Bah, ça détermine mon week-end même.
C'est vrai?
Ah oui, c'est vraiment.
Est-ce qu'il y a des bons films qui sont sortis mercredi, Monique?
Oui.
Alors on commence par lequel?
Ben, Alice au pays des merveilles.
Ah, évidemment. Alors le film de Tim Burton avec Mia Wasikowska et Johnny Depp, entre autres, ça vaut vraiment le coup?
Mais c'est pas mon film préféré de Tim Burton. Mais c'est quand même, j'ai préféré Édouard aux mains d'argent qui était un pur chef-d'œuvre. Bon, mais c'est bien, c'est bien. Ouais. Alice est là devant nous en 3D et en enchantement. Mais il y a tant de monde, d'effets spéciaux, de nains, de lapins, de jumeaux, de rennes, une rouge, une blanche, que c'est un peu foutri-foutra. Mais c'est très beau et on se laisse emporter.
Vous avez mis vos lunettes en 3D pour regarder le film?
Et oui, par-dessus mes lunettes à moi. Alors ça fait beaucoup d'épaisseur.
C'est efficace le 3D quand même.
Oui, oh, ça oui.
Ouais. Isabelle Motro.
Moi, je trouve que le démarrage peine un peu, mais c'est magnifique, m'en fait. Et alors, il y a particulièrement le chat.
Le démarrage peine un peu, ça me rappelle quelqu'un.
Le chapelier est divin.
Ah,
le
bon.
Chapelier
est divin.
Oui, oui. Et alors les effets spéciaux sont très, ah, évidemment c'est en 3D et mais ils sont très bien faits. Par exemple le chapelier, il a des yeux disproportionnés par rapport à son visage. Et c'est une toute petite chose, mais ça c'est complètement magique quoi. Ça donne une espèce de relief extraordinaire.
Et Johnny Depp.
Bah oui c'est lui. Oh, il est extraordinaire.
Pas besoin, cela dit, il y a pas besoin des lunettes 3D. Hein.
Ah bon
non,
pourquoi?
Non, pour des extasies ça marche tout seul.
Excusez-moi, mais par contre, maintenant, je préfère vérifier ce que dit Isabelle. Ouais. Je crois qu'Olivier Carson a vu le film, donc je sais pas si.
Non, moi, je vais jamais au cinéma avant d'avoir entendu ce qu'en dit Monique Pantel.
Bravo, c'est bien.
Bon, alors, elle est réservée, on va
alors,
dire.
Alors, ça marche très fort. Il faut savoir que le premier jour de sortie du film, le démarrage est plus élevé que celui qu'avait eu Avatar.
Alice au pays des merveilles. Quelques réserves quand même du côté de Monique. Un film dont on a beaucoup parlé, c'est un film européen, L'Immortel, avec Jean Reno, Kad Merad, Jean-Pierre Darroussin, Marina Foy. C'est un film de Richard Berry qui raconte l'univers du milieu marseillais.
Eh ben, Jean Reno est un truand qui aime la musique classique, Marseille et son fils. Après une balade, il range sa voiture au parking et là, des tueurs le descendent 20 balles dans la peau.
22 même.
Tout le monde le croit mort, y compris lui-même, qui n'a pas d'expression. Alors on le recoue, on lui enlève les balles, on le recoue, tout ça, on le requin, il sort de l'hôpital, il va se venger. Voilà. Kad Merad joue virgule mal un très méchant truand. Marina Foy, ce que j'adore de toute façon, est très bien en fliquesse. Mais le résultat ne m'a pas emballé, sauf la ville de Marseille, superbe.
Alors c'est vrai que voilà, c'est un film qui est bien réalisé, hein, on peut être honnête, c'est un film repeint, bien réalisé, efficace. Jean Reno est très bien dans le rôle. C'est vrai que Kad Merad, on a un peu de mal, faut le dire, on n'a pas osé le dire l'autre jour à Reno et à Berry quand on était à Marseille, mais il est un peu bizarre dans ce rôle-là.
C'est pas pour lui du tout.
C'est un peu une erreur de distribution.
Oui, on se demande pourquoi lui, pourquoi cette place-là.
Parce qu'il y a Kad Merad dans tous les films.
Oui, c'est ça. C'est un peu la conclusion.
Oh, ça, une fois
non, c'est dommage parce que c'est vrai que c'est efficace, mais je sais pas.
Mais on aime bien Kad Merad, alors.
Ouais, mais là, on dirait un sketch.
Non, mais le film, ça fout en l'air le film quand même.
Et puis, cela dit, dans Alice au Pays des Merveilles, il est très bon. Hein.
Oui, et puis il a des gros yeux.
Voilà, il se rattrape dans
On peut quand même aller voir L'Immortel.
Voilà, le démarrage est pas super. Hein,
Mimu, on aime bien Sylvie Testu et c'est elle, l'institutrice la plus sévère du département, comme c'est écrit sur les affiches. Mimu est un film de Joël Seria. C'est lui qui avait fait les galettes de Pont-Aven, Joël Seria. C'est-à-dire qu'il fait pas si souvent des films.
Avec Marielle.
Avec Jean-Pierre Marielle.
Oh, t'as un cul. Oh, ce cul. C'est mythique, ça.
Ouais, tu sens la pisse.
La pisse. J'aime ça sur des petites jeunes comme on a aujourd'hui.
et d'ailleurs, il voulait reprendre Marielle pour un des rôles de ce film et c'est
Jean-François Balmer qui est très bien.
Non, c'est Michel Galabru qui joue le rôle que devait prendre.
J'ai cru que c'était Jean-François
Marielle, mais c'est vrai qu'il y a aussi Jean-François Balmer et Sylvie Testu et Bruno Locher et aussi la jolie Elena Noguera, sans oublier Dominique Pinon. Alors que vaut Mumu?
Eh bien, je suis allée le voir parce qu'il se jouait en bas de chez moi, vraiment en bas, dans le même immeuble. Et je suis restée parce que l'histoire de ce petit garçon, détesté par son père, ignoré par sa mère et sauvé par son institutrice revêche, Sylvie Testude formidable, m'a bien plu. C'est très mignon. Très mignon.
Il faut peut-être dire juste une chose, c'est dommage, parce qu'il y a longtemps qu'il voulait faire ce film, je crois, Joël Serra. C'est un peu dommage que ça arrive, je sais pas, trois ans après Les Choristes, parce que ça ressemble un peu quand même aux Choristes, quoi.
Oui, bien
faut bien dire les choses.
Bon, et puis qu'ils sortent La Semaine d'Alice,
c'est plutôt réussi, puisque Sylvie Testu est toujours excellente. Ça s'appelle Mumu. Tout ce qui brille. On dit beaucoup de bien de ce film de Géraldine Nakache, avec Géraldine Nakache. Tout ce qui brille, c'est réussi.
Sur la tête de ma mère, c'est un film qui déchire grave. En tout cas, c'est un film tonique. Les deux filles qui parlent le langage des jeunes ont la pêche. De la banlieue voisine plutôt, elles veulent conquérir le Paris bling-bling, mais surtout, ce sont deux vraies copines à la vie, à la mort. C'est un film si parfait, déjà un premier film, qu'on devine la suite. Les filles vont conquérir le cinéma français.
Tout ce qui brille, avec aussi d'ailleurs, signalons-le, Manu Payet et Virginie Ledoyen. Et puis on termine avec White Material, un film de Claire Denis, avec, on a dit donc, joli casting, Isabelle Huppert, Christophe Lambert et Nicolas Duvauchel.
Eh ben moi j'y suis allée parce que ça se jouait au bout de ma rue, et je suis partie au bout d'une heure parce que cette femme française installée dans un pays d'Afrique où les rebelles veulent chasser les Européens m'a gonflée. Risquer la mort pour quelques graines de café, c'est vraiment trop bête. Et Isabelle Huppert est vraiment trop coincée.
Bon, alors on oublie White Material et on va dire que vous avez retenu cette semaine avant tout Tout ce qui brille, un film dont le bouche à oreille est excellent, un film de Géraldine Nakache avec Géraldine Nakache, mais aussi évidemment le Tim Burton, Alice au pays des merveilles, qui va quand même plaire.
Vous allez tomber amoureux du chat du Cheshire, c'est le chat qui sourit.
C'est d'ailleurs le titre de l'album de Nolwenn en même temps. Et puis on peut quand même aussi aller voir L'Immortel, parce que c'est efficace, que Richard Berry a signé une belle réalisation et qu'il y a quand même un casting d'enfer entre Jean Reno, Cadmerade, Daroussa, Marina Foïs et Richard Berry lui-même, qui outre réalisé joue un tout petit rôle. Merci Monique Pantel.
Il y a quand même aussi Marseille.
Eh oui, bien sûr.
Moi je m'en vais au cinéma maintenant.
Ah bon? Ah bah il était temps.
Oui, je m'en vais voir Sept de Turc.
Ah bah c'est très bien, je l'ai déjà vu, c'est très réussi, mais on en parlera la semaine prochaine avec Pascal Elbé et Roche Dizem. Très bon film aussi, Tête de Turc, et c'est la première réalisation de Pascal Elbé. Bon week-end Monique.
Bisous à tout le monde.
Au revoir Olivier.
Europe 1, on va se gêner.
Un invité caché dans une loge. C'est le moment de la loge d'honneur.
Bonjour invité d'honneur.
Bonjour.
La voix est déformée, déformée. À vous de poser toutes les questions que vous voulez et l'invité ne répondra que par oui ou par non. Je vous laisse, cher invité, dans les mains, aux mains plutôt, de mes camarades.
Alors invité d'honneur, est-ce que vous êtes une femme?
Oui.
Est-ce que vous chantez, invité d'honneur?
Ça m'arrive.
Ça vous arrive.
Mais est-ce que vous avez déjà enregistré?
Non.
Non, vous chantez chez vous, vous êtes comédienne?
Oui.
Plutôt comédienne.
On voit plus au théâtre, vous d'ailleurs.
Pas forcément.
Non, c'est au cinéma surtout.
Peut-être. Alors, peut-être.
Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue?
Oui.
Oui.
Alors, est-ce que vous êtes une femme?
Ça c'est, on a déjà...
Je crois, finalement.
Finalement, j'y crois. Philippe,
est-ce que vous avez joué dans des films plutôt dramatiques ou comiques?
Plutôt dramatiques.
Et plus, comique. Donc, pas comiques.
Ça m'arrive.
Ça arrive quand même, ouais.
Est-ce que vous avez tourné beaucoup de films?
Oui.
Combien?
Une centaine.
Une centaine de films.
D'accord. Alors, si vous êtes jeune, c'est que vous avez fait du porno. Sinon, vous avez une, sinon, vous avez une belle carrière derrière vous, quoi, on va dire.
Beaucoup de premiers rôles.
Oui.
D'accord. À la télévision aussi, on voit.
Oui.
Plus à la télévision qu'au cinéma.
Oui.
Ah, dans des séries.
Oui.
Vous êtes un personnage récurrent.
Pour vous dire une chose, une actrice connue d'un certain âge qui aurait fait plus de 100 films n'aurait pas accepté de venir faire cette émission. Donc,
c'est pas vrai ça.
Est-ce que vous incarnez un personnage récurrent dans une série?
Ça m'arrive.
On vous voyait plus sur TF1.
Oui.
Ah. Oh là là.
Est-ce que vous avez un mari célèbre?
Non.
Est-ce que t'es bonne?
Ils sont cons alors.
Je le dirai tout à l'heure.
Vous inquiétez pas, ils vous le diront à mon avis.
Est-ce que vous avez déjà fait des pubs pour la télé?
Non.
Non? Même pas pour une petite tranche de jambon, rien? Non.
J'ai un indice musical à vous proposer.
Ouais.
Sazouk, Sazouk autour de la table.
Sazouk un peu trop sur Isabelle Motreau.
Alors attends.
Vous, évidemment, vous comprenez pourquoi j'ai choisi cet indice.
Bien sûr.
Bien sûr. Autour de la table, est-ce que ça vous aide un peu?
Non, est-ce que c'est la musique d'un film dans lequel vous avez joué?
Non.
Est-ce que vous avez fait les séries de l'été?
Non.
L'indice... Est-ce que vous aimez Zouké, quoi? Vous partez en vacances dans les Caraïbes, quoi?
J'adore Zouké, mais ça n'est pas le...
Mais l'indice, c'est Zouk Machine, l'indice?
Oui. Vous avez tourné dans les clips de Francky Vincent?
Ça, c'est moi.
Est-ce que ça, c'est moi? Vous êtes un des animaux de la ferme?
Est-ce que ça, c'est moi, ça, c'est moi?
Ça, c'est moi, ça, c'est moi?
Oui.
Il y a
non. Non, bon.
C'est plus simple et plus évident que ça, l'indice. Bah,
bien sûr. Les séries sur dans lesquelles vous avez tourné, c'est sur TF1, donc, essentiellement.
Oui. Enfin, oui, mais bon, pas que sur TF1.
C'est pas glorieux, on va pas dire.
Si, si, c'est plutôt pas mal.
Si, j'en suis assez fier. Alors,
c'est des séries qui ont duré?
Ouais.
J'ai un deuxième indice musical.
Il y a de la rumba.
J'ai trouvé.
T'as trouvé?
Oui. Enfin,
tu dis toujours ça. Alors.
Oui, il dit tout le temps ça.
Je l'ai trouvé.
Il a jamais trouvé, il trouve jamais.
Jamais, bah, jamais.
C'est Benichou Junior.
Ta vie, tu veux pas la faire.
Bon, enfin, ça fait deux trucs dedans.
Tu cherches des morceaux d'hier.
Ah oui, t'as pas ce que tu dis là.
Le smoking de travers.
Sinon, c'est qu'un tas de pierres.
Je trouvais.
Isabelle.
Mais c'est deux fois des indices qui nous mettent sur la piste de danse, si j'ose dire.
Oui,
est-ce
mais
que c'est
ça n'a pas de rapport parce que
c'est une coïncidence.
C'est une coïncidence.
Est-ce que vous avez été un ange gardien?
Oui, je suis un ange gardien.
Vous êtes Mimi Mathy.
Êtes-vous Mimi Mathy?
Non,
elle dit qu'elle avait jamais enregistré de
danse. Ah, le smoking de travers.
Tu trouves jamais. Qu'est-ce que tu nous envoies?
Vous êtes un ange gardien?
C'est par rapport au smoking de travers.
On va les laisser réfléchir et on se retrouve après la pub.
16h, 18h30 sur Europe 1 avec Laurent Ruquier.
On va se gêner.
On est bien tous ensemble sur Europe 1 jusqu'à 18h30, c'est On va gêner. Nous sommes toujours en compagnie de Laurent Ruquier et de ses complices qui n'ont toujours pas trouvé l'invité d'honneur. Et Laurent revient en quelques éléments sur les indications qu'ils ont quand même trouvées.
Europe 1, on va se gêner.
Un invité à découvrir. C'est la loge d'honneur.
Bon, je résume les progrès que vous avez fait. Vous savez que c'est notre invité, est une femme. Vous savez qu'elle est plutôt comédienne, et même comédienne, qu'elle a tourné pour le cinéma, mais plus pour la télévision, qu'elle a aussi joué au théâtre, moins souvent peut-être, mais elle a aussi été sur les planches. Et vous savez aussi que c'est plutôt sur TF1, mais sur d'autres chaînes, on l'a vu aussi, qu'on a pu la voir en série récurrente.
Et qu'elle est un ange gardien.
Et que c'est pas Mimi Mathy.
Vous dites ange gardien, c'est donc une image, est-ce que vous seriez dans un rôle de flic?
Non.
Dommage, Philippe, c'était bien joué.
Non, mais heureusement qu'on part pas.
Physiquement, on va saisir. Physiquement, est-ce que vous êtes est-ce que vous êtes plus grande que Mimi Mathy?
C'est pas gentil, oui.
Qu'est-ce que...
Les rôles de flic, quand même, vous en avez eu à l'écran. Pourquoi vous avez dit non?
Non, pas flic, non, je suis pas d'accord. Oui, j'en ai eu, mais...
Ah, oui,
mais j'ai une idée.
J'ai trouvé. Ouais,
est-ce que vous interprétez une bonne sœur dans votre série récurrente?
Vous allez tous les faire. Non.
Bah oui, on cherche.
Ah, oui,
peut-être des questions. Est-ce que vous avez une famille formidable?
J'ai une famille formidable, mais non.
Là, on peut déjà rire. Annie Dupéré et Dominique Lavanant. Hein.
C'est bon, c'est fait. Est-ce que vous aimez faire des bisous?
J'adore faire des bisous.
Premier baiser, tu penses?
Non.
Ah, peut-être que Jérémy Michalak est sur une piste.
Justine de premier baiser.
Alors attendez, j'ai évidemment un autre indice à vous proposer.
La tactique du gendarme, c'est de bien observer sans se faire remarquer. La tactique du gendarme,
c'est une femme d'honneur.
C'est d'avoir avant tout les yeux en face des trous. Contravention, allez, pas de discussion.
Allez,
je connais le métier.
Ça cogite autour de la table. Isabelle Motreau. Alors, faut d'abord vérifier, évidemment.
Oui. Alors, est-ce que vous avez été fliquette ou enfin comment celle qui met des contraventions?
Pervenche. Faut tout les dire.
Non.
Non,
c'est pas
je pensais à Daniel Evnou.
Êtes-vous Daniel Evnou?
Non.
Mais donc, vous n'avez pas été récurrent dans un rôle de policière?
Non.
Vous n'avez pas des yeux verts?
Si.
Vous êtes brune, mat de peau avec des yeux verts?
Oui.
Ah.
Bah vas-y, dis-le, mais moi c'est pas...
Corinne Touzet ?
Oui.
Ah oh, bah je l'ai depuis tout à l'heure, je l'ai depuis tout à l'heure.
Effectivement, il s'agit de Corinne Touzet qui va nous rejoindre à l'occasion de la pièce Personne n'est parfait qui se joue actuellement au Théâtre des Variétés.
Attends, mais Corinne Touzet, mais
je l'ai depuis tout à l'heure, mais elle a fait les flics.
Bah oui,
bien sûr.
C'est pas flic, c'est gendarme.
Oh.
C'est pas pareil.
Ah, c'est pas pareil. Elle a joué avec les mots, Corinne Touzet.
Et je vais rajouter de beaux yeux verts.
Et bonjour et bienvenue, bonjour. Corinne.
Bienvenue quand même. Hein.
Ah oui, c'est magnifique, c'était
ouais,
trop facile.
Mais c'est de la triche.
Non, non,
c'est
gendarme, je suis militaire, j'étais militaire, donc
c'est
ça n'a rien à voir. Absolument rien à voir.
Allez, laissez, ils comprennent
non,
rien.
Je vous dis absolument rien à voir. C'est très important pour moi. Bon,
alors donc, Fabrice, la question tout à l'heure était, est-ce que t'es bonne ?
C'est à vous de me répondre, je ne sais pas. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
Vous avez un pull en cachemire ?
Oui.
Je vais essayer de garer Lafayette, ceux-là, non ?
Non, ça c'est Zadig et Voltaire. Non,
c'est Zadig et Voltaire. C'est très mignon.
Et le jean, c'est quoi la marque ? La marque du jean, c'est quoi ?
Pas la marque du tout, pas du tout.
Ah bon, non, mais bon,
c'est vrai que j'ai pas fait les boutiques depuis plus de 6 ans.
Et le castor mort autour de votre cou, c'est.
Alors, ça, c'est un cadeau d'une fan qui me l'a tricoté et je l'aime beaucoup et je la quitte pas.
C'est vrai qu'elle est jolie, hein, Corinne Touzet.
Oui. Ah, c'est la femme. Quand on parle de la femme, pour moi, c'est Corinne Touzet.
Ah oui.
Il y a vraiment la
femme. Et vous êtes antillais, Frédéric ?
Non,
Fabrice, pardon.
Non, je suis camerounais du côté de mon père et normand du côté de ma mère.
En revanche, voilà pourquoi on a diffusé Zouk Machine tout à l'heure. Effectivement, notre amie Corinne Touzet est originaire des Antilles. Tout simplement, voilà ce qu'il fallait déduire du premier indice.
Eh bien, peu de gens le savent, en fait.
Finalement, si, maintenant, ça fait quand même un paquet d'années. Puis j'ai produit un film en honneur de ma grand-mère qui s'appelait Parfum de Caraïbes, qui est sorti il y a 5 ans à peu près. Et on avait beaucoup communiqué dessus. C'est vrai que je fais pas le drapeau, j'ai pas de raison. Je suis française, voilà, métropolitaine maintenant.
Et j'étais hissée noire, vous en êtes ?
Mamie, oui.
Personne n'est parfait, pardon, c'est le titre.
Ça peut être très mal interprété ce que vous venez.
Personne n'est parfait, c'est le titre de la pièce que vous jouez au Théâtre des Variétés avec Jean-Luc Reichmann, mise en scène par Alain Saxe. On en parle dans un instant après la pub.
Profitez bien des dernières minutes d'On va gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Avec lui en ce vendredi, Philippe Alfonsi, Fabrice Eboué, Olivier de Kersauzon, Jérémy Michalak, Isabelle Motreau, Titoff et l'invité d'honneur, une très belle comédienne, Corinne Touzet.
Personne n'est parfait à l'affiche du Théâtre des Variétés avec Jean-Luc Reichmann, Delphine Rivière, Bernard Deran et notre invité d'honneur aujourd'hui, femme d'honneur et invité d'honneur, Corinne Touzet. Et ça y est, ça a démarré. Alain Saxe, le metteur en scène que je croisais de temps en temps, vous a fait répéter pendant plusieurs semaines avant que, ça y est, vous teniez l'affiche du Théâtre des Variétés dans cette pièce de Simone Williams, une pièce drôle, là, pour le coup, hein. Il n'y a rien de dramatique là-dedans. Une pièce dans laquelle vous jouez une éditrice, il me semble.
Oui. C'est une pièce très drôle. C'est très, de plus en plus drôle, d'ailleurs, parce que maintenant, on commence un peu à se décrisper. On était morts de peur. Le Théâtre des Variétés est un des plus beaux théâtres de Paris. Et il est grand, il est impressionnant. Et, voilà. C'est l'adaptation d'une pièce anglaise. C'est une création, parce que la pièce n'a jamais été jouée en France. Elle est jouée dans une vingtaine de pays. Et, c'est une éditrice qui lance un concours, qui est à la recherche de nouveaux talents et qui reçoit des tonnes de manuscrits et qui en choisit un et qui dont l'auteur s'appelle Joséphine Blanchette et en fait l'auteur n'est tout autre que Jean-Luc Reichmann qui a des velléités de devenir romancier qui est un petit statisticien qui arrive pas du tout à être célèbre et qui écrit pas très bien et un jour il en a ras-le-bol parce qu'à chaque fois je lui écris pour lui dire que ce qu'il écrit c'est nul et il écrit sous un pseudo de femme donc Joséphine Blanchette et il commence à écrire comme s'il était une femme. Et l'histoire m'interpelle et m'intéresse et j'ai envie de le rencontrer.
Ça devient mieux d'un seul coup.
Voilà. Donc c'est bâti, en fait, comme tous les faits d'eau, vous savez, sur un énorme mensonge. Mmh. Et il va falloir s'en dépêtrer pendant toute la pièce. Et donc à un moment, évidemment, il est obligé de se transformer en femme puisque j'arrive chez lui pour rencontrer cette dame.
Michalak a fait l'inverse pour rentrer dans l'équipe.
Hein. ça veut dire que Jean-Luc Reichmann se travestit pendant
se
la
déguise,
pièce.
Il a pas vraiment le temps parce que je sonne et 5 minutes après, il faut qu'il apparaisse. Donc
mais c'est très drôle. Les gens rient énormément et nous, on s'amuse beaucoup, beaucoup. C'est très, très ludique, très jouissif.
Pour Reichmann, c'est quasiment des débuts quand même, hein, dans.
Alors dans ce style de pièce, oui, mais c'est un acteur, Jean-Luc. Hein, les gens ne savent pas forcément, donc il faut le redire.
On a oublié parce qu'effectivement, la télévision l'a vampirisé, comme on dit.
Voilà, c'est devenu un animateur.
Mais donc c'est un retour.
Voilà, c'est un retour et une grande envie qu'il avait. Et puis il s'avère qu'on a eu l'envie en même temps, donc on s'est retrouvé là. Vraiment grâce à Alain. Alain qui est un metteur en scène formidable. Je ne sais pas si vous avez vu La Vie parisienne, parce que c'est absolument magnifique comme spectacle.
Il faut aller le voir.
Offenbach, au Théâtre Antoine.
C'est magnifique.
Madoula Niçoise, voilà, c'est quelqu'un d'élégant, de drôle et de fin. Il a fait une très très jolie chose.
Personne n'est parfait au Théâtre des Variétés. Ça vous plaît de faire rire alors, Corinne Touzé?
Alors, je suis folle de joie de ça, oui, parce que j'ai cette chape de plomb depuis une vingtaine d'années quand même, parce que j'ai eu des rôles dramatiques très forts que j'aime beaucoup et je vais y retourner dans une petite année. Mais c'est vrai que je reviens encore à ce mot, c'est kiffant, quoi. C'est ludique, c'est le soir, on a un peu l'impression d'avoir des ailes. Et enfin, toi, tu connais ça par cœur,
bien sûr.
Et ça donne beaucoup d'énergie. Moi, j'ai l'impression de prendre et de recevoir et de partager, quoi. C'est faire rire, c'est énorme. Vous êtes tous habitués, mais pour moi, c'est nouveau et c'est chouette.
Bon, Fabrice, il aimerait bien, mais bon, ça bouge pas toujours.
Nous, on se marre pas beaucoup ici.
Surtout vous.
On fait semblant, mais franchement, on fait semblant de se marrer. Mais alors, qu'est-ce qu'on se fait chier, putain.
Kerso. C'est le plus drôle de l'émission, c'est la gueule. Kersozon, quoi.
Personne n'est parfait. Signalons aussi la présence de quelqu'un qui est un grand comédien, qui était déjà dans la pièce Toc Toc. Il se tourne vers la comédie là depuis quelques pièces, puis qui était déjà dans Toc Toc.
Bernard Derrand, il faut absolument venir le voir parce qu'il est énorme. Dans la pièce, il est énorme.
C'est lui qui jouait le patient qui finalement était le docteur dans la pièce de Laurent Baffy, Toc Toc.
Plein de gros mots.
Voilà. Bernard Derrand aux côtés de Corinne Touzé et Jean-Luc Reichmann dans Personne n'est parfait, c'est aux variétés. On se retrouve dans un instant, vous restez avec nous jusqu'à 18h30.
On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier
jusqu'à 18h30.
Comment bien entamer son congé de fin de semaine? C'est simple, déjà vous écoutez Europe 1, ça c'est une évidence, mais vous restez avec nous jusqu'à 18h30, les 5 dernières minutes d'On va se gêner avec Laurent Ruquier, ses complices et l'invité d'honneur aujourd'hui, Corinne Touzé.
Corinne Touzé avec nous jusqu'à 18h30 à l'occasion de Personne n'est parfait, la pièce à l'affiche du Théâtre des Variétés. J'aimerais quand même qu'on revienne sur les différents indices. Alors le premier, on a expliqué évidemment. Une grand-maman martiniquaise.
C'est bien de réduire les Antilles à ça, ils vont aller loin avec ça.
Vous y retournez souvent aux Antilles?
Alors j'ai un peu trop travaillé, mais je vais y retourner parce que papa part à la retraite et il va finir sa vie là-bas. Il en meurt d'envie, donc il part à la fin de l'année. Là. Donc il va falloir que j'y aille plus souvent. Maintenant.
C'est important les racines. Aller au Club Med, il est vachement bien.
je ne réponds pas.
Et peut-être la pièce en tournée, qui sait, passera par les Antilles. Sait-on jamais.
J'adore.
Alors le deuxième indice, effectivement, c'est vrai que c'était un hasard. Il y avait aussi une chanson dedans, mais c'était une coïncidence.
Il y a de la rumba dans l'air.
Ça fallait aller chercher loin quand même.
Là, c'était effectivement tout simplement parce que vous jouez dans le film La Rumba ou Rumba de Roger Hanin, c'est bien ça?
Oui, La Rumba, c'est un des plus beaux souvenirs de tournage de ma carrière, parce que j'ai croisé Lino Ventura et Nils Arestrup et j'étais très fière, j'étais très jeune, j'avais deux scènes dans ce film et c'est un très beau souvenir pour moi.
Je regarde les réalisateurs qui vous ont fait tourner au cinéma, il y a quand même du beau monde, Claude Lelouch pour Vive à la vie, en plus c'était un de ses films les plus réussis, moi j'avais adoré Vive à la vie. Vous avez tourné aussi dans un film de Lautner, mais je me souviens pas le cow-boy de quoi il s'agit.
Oh là là, mais ça c'est terrible, ça c'est le genre de truc qu'on fait quand on veut absolument faire ce boulot. Alors c'était avec Aldo Macione, mais je vais vous dire franchement, je ne renie rien, je ne regrette rien parce que comme
mais je raille alors quand même.
Non, pas du tout, parce que je dis à tous les gamins qui m'écrivent, ça c'est des gamins qui veulent être acteurs ou qui veulent être célèbres, parce que maintenant ils savent plus s'ils veulent être acteurs, ils veulent plutôt être célèbres.
Il faut tout faire.
Ce qui est triste un peu, mais enfin voilà, c'est un vrai métier, donc je leur explique que c'est un vrai métier et puis qu'il faut travailler. Plus on travaille, plus on travaille. Ouais. Quelle que soit l'expérience, que le scénar soit bon ou mauvais, que le metteur soit bon ou mauvais, on apprend quelque chose. Et moi, de toutes mes expériences, j'ai appris quelque chose.
C'est pour ça que je viens ici tous les matins, moi.
c'est vachement dur d'être dans un film chaotique. Voilà.
Il faut signaler que vous êtes aussi, non seulement évidemment comédienne dans des séries télé, mais productrice pour la télévision.
Oui, je suis productrice depuis 12 ans maintenant. J'ai fait quelques beaux films dont je suis fière. et sur le service public et sur TF1. C'est pour ça que j'avais du mal à vous répondre, puisque j'ai fait de très beaux succès sur France 2 à 4 reprises. Donc je suis vraiment contente.
Avec un sujet dur en plus.
Avec des sujets difficiles.
C'était quoi?
J'ai fait un film sur le handicap, j'ai fait un film sur l'amnésie, et j'ai fait un film sur les SDF.
Celui-là est particulier.
Et demain, Paulin.
Il reste pas grand-chose, là.
Et là, vous travaillez sur d'autres projets?
Alors là, j'ai du mal parce qu'on est en pleine crise, donc c'est compliqué. Travailler avec les diffuseurs, ça devient carrément un sacerdoce, on a envie de se pendre tous les jours.
Et puis à France Télévisions, on annonce des changements.
Voilà, donc je sais pas très bien. Mais enfin, j'ai deux choses qui sont en. Dont une comédie et un road movie qui sont en cours d'écriture. Avec tous ces changements, je ne vous dis pas que je vais tourner l'année prochaine, peut-être, peut-être pas. En tout cas, je continue, je m'accroche.
Sur Énergie 12, ils cherchent pas mal de trucs.
Alors, évidemment, le troisième indice, celui-ci a mis tout le monde sur la piste.
Oh, ça, c'est dégueulasse, parce que je me suis dit, ils vont tous trouver. Et puis en fait, non, ils n'ont pas trouvé.
Sans se faire remarquer, la
tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-tec-t
répondu est-ce qu'on me reconnaît dans la rue. Évidemment, j'imagine que la plupart des téléspectateurs vous parlent de la femme d'honneur.
Toujours, tous les jours.
Je voulais juste vous dire que j'étais un peu déçu là aujourd'hui parce que Corinne, d'habitude, moi, enfin, je me souviens la dernière fois que je vous ai vu, vous étiez tout en cuir.
Mais pourquoi tout le monde me parle de ça? Ça m'énerve, ça fait 8 jours que j'entends parler que de ça.
Mais c'est fou.
Ça vous a marqué. Hein.
Ah, mais c'était sexy en diable.
Vous étiez moulé.
J'ai failli venir en cuir ce matin.
Vous étiez moulé dans une tenue de cuir, même Cousteau, je ne l'avais jamais vu moulé comme ça.
Ah, mais ça, c'est Jean-Claude Dutroit.
C'était quoi? C'était pour retrouver les images quelque part?
Oui, c'est vivement dimanche, tu sais.
Ah, d'accord.
Mais chez moi aussi, vous étiez venu.
Chez vous aussi?
Ah, oui.
Bon, pardon.
Ah, vous quittiez pas le cuir à ce moment-là. Ah, non, non. Ah, oui, oui. Ah, ou alors si j'étais chez Drucker ce soir-là.
Ah, mais oui, vous étiez, mais vous êtes gogol, vous êtes gogol, Laurent.
Je suis gogol. Mais elle nous dit que je suis gogol.
Je crois que tu étais simplement à une soirée cuir.
On était ensemble chez Michel, je crois que c'est ça.
Ah, mais c'est ça. Alors, ben, voyez ce cuir marqué.
J'étais tout en noir.
Et alors, vous avez des jolies tenues dans Personne n'est parfait.
Ouais, très jolies tenues. Bon. S'il paraît, hein. Voilà. Vous allez venir nous voir, j'espère.
Vous les enlevez parfois?
Alors, derrière les coulisses, ça va très très vite. C'est rock'n'roll. Si vous voulez rester backstage, il n'y a pas de problème.
Mais je connais le code d'entrée des coulisses du théâtre
vrai,
des variétés.
Oui,
parce que c'est un théâtre auquel je suis habitué. Donc, j'aurai plaisir à venir vous applaudir. Corinne Touzet, Jean-Luc Reichmann.
Il est en train de devenir hétéro, mais d'une force.
Venez tous.
Bah, franchement.
C'est top, tu viendras.
Ah oui, je vais venir avec grand plaisir.
Des yeux comme ça.
J'ai pas le code, moi, par contre, des coulisses.
Moi, ce sont les yeux. Je me fiche de savoir ce qu'il y a autour, bah, hommes, femmes, les yeux.
Tu connais ça par cœur.
C'est les yeux avec une cagoule en cuir autour.
C'est bizarre, Fabrice, il est métis, mais il n'a pas du tout les mêmes yeux. Quoi,
ça, qu'est-ce que vous voulez.
Ouais, mais moi, c'est que d'un côté, je suis noir-blanc, les Antillais, c'est beaucoup plus mélangé encore. Tu vois ce que je veux
dire. Gaffe à ce que tu dis, toi.
C'est ça, comment ça, les Africains, les Antillais.
Toi, t'es Camerounais et Normand.
Ouais, c'est ça.
C'est-à-dire que pour Zemmour, tu serais dealer de fromage, quoi.
Dépêchez-vous.
Il a l'esprit d'association, il est bien.
Dépêchez-vous, parce que pour l'instant, c'est seulement 60 représentations. Exceptionnel au Théâtre des Variétés pour applaudir Corinne Touzet.
Je signale parce que je sais que les gens de province vous écoutent beaucoup et que c'est important de le dire qu'il y a deux matinées qui peuvent les arranger par rapport au
samedi
transport.
Samedi ou dimanche.
Voilà, le samedi à 17h30 et le dimanche à 16h30.
Parfait, merci Corinne Touzet.
Merci à vous.
Et merci à vous, très cher Laurent. Rendez-vous demain sur Europe 1 pour les meilleurs moments dont va se gêner. Et puis on vous retrouve évidemment la semaine prochaine dès 16h. 16h, 18h30, c'est votre rendez-vous habituel. J'ai quelques secondes, donc j'en profite pour une fois pour rappeler aux auditeurs qui sont fans et qui me le demandent à chaque fois qu'ils peuvent évidemment venir assister aux enregistrements des émissions, connaître Europe 1, venir ici dans le 8e à Paris, rue François 1er, découvrir le studio Merlin. Vous demandez comment ils sont, à quoi il ressemble, comment il est. Bah c'est très simple. Vous nous appelez, deux possibilités. Le standard d'Europe 1, c'est le 3921. Ou bien vous nous adressez un mail sur le site europe1.fr. On sera ravis de vous rencontrer.